Dimanche 14 juin 2026, auditrices, auditeurs de Radio Mindeléo, nous vous souhaitons donc un excellent dimanche surtout. Bonne journée à vous tous. L'émission Paix et Développement sur Radio Mindeléo mise en onde. Jean-Claude Ndagué devant ce micro pour la présentation expédie Kialou. Vous nous écoutez dans la ville de Bukavu sur 88.8. Vous nous suivez dans les territoires sur 91.7. Vous nous suivez en ligne sur internet en tapant le www.radiomindeleo.org. Merci infiniment pour votre attention soutenue. Au menu de l'émission de ce jour, un seul sujet. Le sit-in projeté vendredi 12 juin par l'opposition congolaise au palais du peuple à Kinshasa tourné au vinaigre. Malgré l'interdiction de l'organisation de cette activité par l'hôtel de vie de Kinshasa, au motif que le palais du peuple est un siège inviolable, les opposants réunis au sein de la coalition C64 ont bravé la peur en y conduisant leurs militants. De heurts ont été signalés entre militants des partis de l'opposition et la police nationale congolaise appuyée par la force du progrès de l'UDPS. Plusieurs militants ont été blessés et conduits dans des jeeps de la police et dans les structures sanitaires. L'on rapporte aussi que Martin Fayoulou, Jean-Marc Kabunda, Delice Sangam, Adosson Dombasi ont été blessés dans ce heurt. Le siège de l'SID de Martin Fayoulou a été saccagé et sur le plan humain, deux personnes ont perdu la vie. Selon l'opposition congolaise, plusieurs organisations de défense des droits humains, RDC comme à l'étranger, dénoncent un usage excessif de la force et réclament l'ouverture d'une enquête indépendante. Ils appellent également les autorités à garantir les libertés publiques et à faire toute la lumière sur ces violences. Le gouvernement congolais condamne ces incidents et annonce l'ouverture des enquêtes pour établir les circonstances exactes des faits et appelle les acteurs politiques à la retenue et à la responsabilité. Quelle analyse faire de cette deuxième action de l'opposition congolaise pour protester contre le projet de changement de la constitution? Nous chercherons à répondre à cette interrogation dans l'émission Paix et Développement de ce dimanche 14 juin 2026. À vous tous, une fois de plus, bienvenue, très chers auditeurs. No problem. Merci beaucoup, très chers auditeurs, pour l'attention soutenue. Nous vous souhaitons donc un excellent dimanche et bonnes conditions d'écoute. Et surtout, nous sollicitons une attention particulière de votre part pour, bien évidemment, faire avancer les échanges dans le but de la construction d'une société dans laquelle le respect des droits humains est primordial et dans laquelle la justice est rendue et la bonne gouvernance est effective. Nous rappelons quelques faits marquants. Deux personnes ont perdu la vie et plusieurs biens des valeurs ont été emportés lors d'un cambriolage survenu dans la nuit de jeudi à vendredi 12 juin sur l'axe Moulengues, premier au quartier Panzi, dans la commune d'Ibanda. Selon Christophe Itongwa, qui est chef de quartier adjoint de Panzi, les victimes sont une femme âgée d'une soixantaine d'années, un jeune homme de 26 ans, originaire du village de Nyangouloubé, dans le territoire de Kabar et les assaillants. Aurait également emporté une importante somme d'argent ainsi que plusieurs biens matériels. Et plusieurs quartiers de la commune de Bagira dans la ville de Bukavu sont confrontés à une montée inquiétante de l'insécurité. Les quartiers Lumumba et Nyakavogo figurent parmi les zones les plus touchées. Selon plusieurs habitants, des hommes armés, des machettes et d'autres armes blanches tendent régulièrement des embuscades aux passagers pendant les heures vespérales. Les victimes sont dépouillées de leurs biens et dans certains cas soumises à des actes de violence et d'humiliation. Et après 2 jours de passation du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOSP, les élèves de différents centres du Sud Kivu se disent globalement satisfaits du déroulement des épreuves. Beaucoup affichent également une certaine confiance quant aux résultats attendus. Ces impressions ont été recueillies lors d'une descente effectuée par Radio Mandeléo dans plusieurs centres de passation à travers la province sur place. Donc, nombreux candidats ont salué l'organisation générale du test, estimant que les conditions de passation étaient relativement bonnes malgré quelques difficultés rencontrées. Parlons santé exceptionnellement dans cette émission. Plus de 700 enfants ont déjà perdu la vie depuis le début de l'épidémie de rougeole en février 2026 dans la zone de santé rurale de Mulungu, couvrant les groupements de Bamuguba Sud et Baliga dans le territoire de Shabunda au Sud Kivu. Dans une interview accordée à Radio Mandeléo jeudi dernier, le président de la société civile de Bamuguba Sud, Polycarpe Bouzabouandozi, indique que la maladie continue de se propager dans un contexte sanitaire extrêmement fragile. Selon lui, plus de 80 enfants meurent chaque semaine tenés de la rougeole, du paludisme, de la malnutrition et d'autres maladies dans les 4 zones de santé rurale qui comptent le territoire de Shabunda. Cette situation est attribuée à la rupture totale des médicaments essentiels ainsi qu'à la faible couverture vaccinale dans un contexte marqué par le conflit armé. Dans la zone de santé rurale de Mulungu, les données locales font état de 11 décès maternels enregistrés entre janvier et juin 2026. Au cours de la même période, 226 décès liés au paludisme ont été signalés, précise la société civile locale. Les cas de malnutrition ont également causé 211 décès sur fond de forte vulnérabilité nutritionnelle, alerte Polycarpe Bouzabouandozi. Les estimations locales indiquent que plus de 56% des femmes enceintes souffrent de malnutrition. Cette situation entraîne des fréquents cas de naissance avec un faible poids et contribue à une mortalité infantile élevée. Et la zone de santé de Shabunda a enregistré 144 décès dus à la rougeole en moins de 2 semaines seulement. À cela s'ajoutent plus de 500 malades admis dans des structures sanitaires, notamment à l'hôpital général de référence de Shabunda dans la province du Sud Kivu. En quoi Maître Joseph Mpesseni, défenseur des droits humains dans la zone, cette maladie risque de décimer la population car elle se propage rapidement, menace également les zones environnantes et aucune riposte n'est organisée. Celui-ci regrette de constater que malgré la gravité de la situation, aucune autorité sanitaire ne semble s'intéresser suffisamment à cette question alors que le nombre des cas ne cesse d'augmenter. À Bukavu, on est plus concentré à la riposte contre Ebola, alors que dans les territoires, la rougeole fait rage. Vous l'avez donc suivi, dans la zone de santé de Shabunda, 144 décès dus à la rougeole en moins de 2 semaines seulement ont été enregistrés. 500 malades admis dans des structures sanitaires, notamment l'hôpital général des références de Shabunda. Et depuis que cette maladie a été déclarée en février dernier, Shabunda a enregistré un taux de plus de 700 enfants qui ont perdu la vie. Imaginez-vous, depuis février dernier, pratiquement 80 décèdent chaque semaine de la rougeole et d'autres maladies telles que le palu, la malnutrition dans les zones de santé rurale du territoire de Shabunda. Au Sud Kivu, pour ce qui est d'Ebola, seuls 3 cas ont déjà été signalés dans la zone de santé de Mitsi Muresa, dont un décès. Les équipes de riposte sont mobilisées par-ci, par-là pour contenir cette épidémie déclarée également au Nord Kivu et dans la province de l'Ituri, et à la suite justement d'un premier cas d'Ebola au Nord Kivu, précisément à Goma. Les frontières avaient été fermées, donc il n'y a plus de mouvement entre la ville de Bukavu et Kamembe au Rwanda depuis pratiquement 3 semaines. Et voilà donc la situation sanitaire dans la province du Sud Kivu. Et un peu d'international, Donald Trump affirme que les États-Unis signeraient aujourd'hui dimanche un accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient et prévoyant la réouverture immédiate du détroit d'Ormuz, une date non confirmée à ce stade par Téhéran. Des dizaines de petites barques de paix sont immobilisé depuis plusieurs jours dans les eaux calmes au large de la capitale du Mozambique, la flambée des prix du carburant les empêchant de prendre la mer. Il faut donc signifier que depuis que le gouvernement a augmenté les prix début mai en raison du conflit au Moyen-Orient, l'impact est dramatique sur place. Et donc la date d'aujourd'hui est attendue de pied ferme pour la signature d'un accord entre l'Iran et les États-Unis. Donald Trump et les médiateurs pakistanais ont affirmé hier samedi que la signature d'un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient a été prévue ce dimanche. Mais côté iranien, rien n'est signifié à ce sujet. On attend donc voir la concrétisation de cette annonce. Les invités dans ce studio, Ide Bakulu Magadjou, analyste indépendant. Ide Bakulu, bonjour et bienvenue.
Bonjour Expedi, bonjour à tous les co-débatteurs, bonjour à tous les auditeurs de la radio Maïnéléo.
Nous recevons dans ce studio Amos Bissimo, militant de l'OBAPE-GRDC. Amos, bonjour et bienvenue.
Bonjour cher Expedi, bonjour aux débatteurs avec qui nous sommes dans ce studio. Bonjour à toute la population qui est en train de nous suivre, surtout les militantes et les militants du grand mouvement sur l'OBAPE-GRDC, partout nous suivent à volonté.
Amani Maïnéléo, il est analyste indépendant. Amani, bonjour et bienvenue.
Bonjour à Expedi, bonjour également à tous les auditeurs, auditrices de la grande radio Maïnéléo, et surtout bon dimanche à tous.
Baraka Joseph, il est de l'Institut Patrice Emery Lumumba, bonjour et bienvenue.
Bonjour, bonjour aux auditeurs, aux auditrices, bonjour aux co-débatteurs.
Joseph, vous avez suivi la situation sanitaire en province avec un focus sur le territoire de Shabunda qui enregistre un nombre suffisant des décès dus à la rougeole. Comme acteur du domaine de la santé, quel commentaire faire de cette situation?
Bon, ce n'est même pas comme acteur du domaine de la santé seulement, mais c'est aussi comme citoyen d'un pays qui a abandonné le sien. Vous savez que pour savoir quel est l'état d'un pays, il faut voir d'abord et avant tout comment il prend soin de ses fragiles. Et les fragiles, on les connaît. C'est d'abord la période où tous nous sommes dépendants des parents, des conditions de vie sociale des parents, de leurs possibilités, des possibilités d'accès aux soins, ainsi de suite. Et c'est d'abord et avant tout la toute petite enfance. Vous voyez. Et la deuxième période la plus fragile, c'est celle de l'âge avancé où on ne travaille plus. Et donc, une fois encore, on revient à la dépendance. Et on devient dépendant, une fois encore, et pour les soins, et pour l'alimentation, et pour de ce qu'on a accumulé, par exemple, si on avait pour la retraite, si on a eu une retraite conséquente, ou tout simplement de services sociaux. Et là, ici, en bref et en image, on a la preuve d'un pays qui a abandonné totalement les personnes dont on devait que tous au chevet de ces personnes. Ce sont nos enfants en fait. Et ces enfants qui meurent, ils meurent de quoi? C'est souvent la rougeole, mais sur la rougeole dont on vient de parler ici, c'est sur quel terrain? Parce que normalement, ce ne devait pas être une maladie aussi décimante que cela. Mais c'est sur quel terrain? Des malnutritions essentiellement. Donc des sur terrain d'autres fragilités accumulées qui font assez que. En fait, c'est douloureux, en fait. C'est très douloureux. Et c'est le problème, ce qui rend tout cela dramatique et tragique, c'est que ce n'est pas une chose dont on voit la fin à courte perspective. On sait que tant que des milieux sont coupés les uns les autres, on sait que tant que l'accessibilité aux médicaments essentiels ne sont pas garantis, on sait que tant que la relance agricole n'est pas faite, vous savez qu'au moins un enfant sur deux à Bukavu souffre de malnutrition chronique. Ce sont là nos chiffres. Et ces chiffres ne reculent pas, ils évoluent en s'aggravant. Vous vous rendez compte de quelle génération de gens on fait si on peut laisser un enfant sur deux souffrir de malnutrition chronique, mourir de faim ou des conséquences de la faim. Vous rendez compte de tout ça. Et ce qui est dramatique, je souligne, c'est que ce n'est pas pour finir aujourd'hui ni demain. Un autre aspect de ces considérations épidémiologiques, c'est que les protocoles ou les stratégies de prise en charge de containment, de contenance, de maîtrise d'épidémie, demandent des mesures qui sont totalement incapables d'être garanties chez nous. Imaginez un peu, si vous voulez arrêter la propagation d'une maladie fortement contagieuse dans des quartiers très populaires et concentrés. Je n'en cite pas un seul pour que les gens ne pensent pas que je les étiquette. Mais nous connaissons nos milieux. Vous vous rendez compte de ça? C'est impossible. Vous vous rendez compte du fait qu'il y a des mesures qui ne sont pas et peuvent pas être prises parce que tout simplement elles ne seront pas respectées du fait que les gens doivent aller se battre pour survivre. Bref, moi quand je me pose la question des mesures qu'il faut prendre, comment garantir à long terme, parce qu'il ne faut pas prendre des mesures superficielles. On gère en permanence des situations de crise aiguë, mais à quand est-ce qu'on résout le problème chronique et profond? Et là, c'est grave.
Est-ce qu'on peut lier l'aggravation de la situation avec le contexte de la guerre?
Mais bien parce sûr, qu'aujourd'hui, tout, les cela est lié, sont fermés, tout cela est lié.
Et le trafic routier, oui, il est suspendu à certains endroits.
Oui, mais c'est ce que j'ai dit. De façon structurelle, les milieux sont coupés les uns les autres. Il n'y a pas accès aux médicaments essentiels. Les denrées alimentaires coûtent de plus en plus cher. La situation sécuritaire, elle est ce qu'elle est. La situation politique et des mesures structurelles de fond pour garantir tout ça.
Et comment expliquer la démarcation qu'on constate en ce qui concerne, par exemple, la riposte d'Ebola et la riposte contre certaines maladies comme la rougeole? On sent que les États-Unis, par exemple, et tous les partenaires internationaux injectent beaucoup d'argent pour certaines maladies ou certaines épidémies. On l'a vu avec ce qui s'est passé sous Covid, aujourd'hui Ebola, antivirus en Occident, mais pour certaines maladies, on semble ne pas y focaliser plus d'attention. Comment on justifie cette démarcation?
Elle peut être justifiée à trois niveaux. Le premier niveau, c'est que toutes les maladies à risque de passer d'épidémie à pandémie, elles sont prises au sérieux au niveau international. Ça, c'est un. La deuxième chose est que les maladies pour lesquelles on n'a pas un contrôle effectif au niveau international, par exemple, vous voyez, par exemple, si le Rwanda, par exemple, maîtrise la prise en charge du coronavirus, mais que nous, on n'a pas cette maîtrise là-bas, ils ne vont pas craindre cette maladie parce que même si elle leur arrive, ils vont en prendre charge. Ouais. Mais quand on sait, par exemple, qu'Ebola n'est pas encore maîtrisé, tout le monde a peur.
Il n'y a pas de traitement.
Tout le monde a peur que la maladie lui arrive et qu'ils ne sachent pas en prendre en charge. Mais attention, tout cela est beau quand c'est dit comme ça, mais en plus, il y a aussi des questions d'intérêt. Il y a trop d'intérêts derrière. On ne court pas derrière une maladie pour laquelle on ne sait pas qu'il y a des intérêts. Et ce financier, il faut le dire comme ça. Et puis aussi, en plus de ces intérêts financiers, il y a des intérêts politiques. Mais politiques pas au sens où on le comprend. Je finis disant, voilà par exemple l'OMS, dont je suis très critique. Vous voyez, en tout cas, je ne vais pas me le cacher. Ils nous font beaucoup de choses très bonnes. Ils nous ont aidés à prendre en charge des situations sanitaires vraiment.
Et visiblement, ils nous aident dans
beaucoup. Je le reconnais, je l'ai dit directement comme ça, d'emblée. Mais je suis critique aussi du fait que parfois, certaines maladies font avancer certains projets, dont c'est du système One Health, des questions comme la réforme du règlement sanitaire international ou encore le projet de traité pandémie. Et des projets de traité pandémie comme ça ne peuvent pas avancer s'il n'y a pas de panique. S'il n'y a pas de panique internationale, politique et tout ce qui va avec. Et puis, parfois, il y a un système de financement. Et je le souligne, il y a un système de financement qui mérite qu'il y ait un activisme sanitaire. Donc, tout cela pris ensemble explique que, bon, voilà, il y a certaines maladies ou considérations qui recevront plus d'attention que d'autres.
Voilà. Idé Bakoulou, quel est le commentaire faire de la situation? Vous l'avez suivi, la situation elle est calamiteuse en territoire de Chabunda, mais au-delà de l'aspect sanitaire, on annonce également la signature d'un accord de paix entre l'Iran et les États-Unis ce dimanche.
Bon, je commence par ce qui se passe chez nous. C'est dramatique ce qu'il y a à Chabunda, tel que vous venez de le dire ici. C'est vraiment dramatique. Et c'est grave que des maladies comme la rougeole continuent à tuer les gens. C'est vraiment très grave. C'est au niveau... ce genre d'épidémies sont souvent des épidémies... Bon, je ne suis pas trop dans la santé publique, mais... En principe, je crois qu'à un certain niveau, ce genre d'épidémie ne devrait plus tuer les gens. Parce qu'il y a quand même des vaccins. Il y a quand même des vaccins qui sont... Je crois que dans mon enfance, moi, j'avais pris le vaccin contre la rougeole. Tous mes enfants également. Et ça m'étonne que, est-ce qu'à Chabunda il n'y a pas eu vaccin? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait autant de cas? C'est vraiment terrible. Ce qui est encore plus terrible, c'est ce qui se passe à Bunia, avec
Ebola.
Avec Ebola. Les gens n'en parlent pas assez, mais j'ai vu hier sur une plateforme quelqu'un qui s'adresse au président de la République, quelqu'un de Bunia, un médecin d'ailleurs, et qui lui dit, Excellence, la situation n'est pas prise en charge. La situation n'est pas prise en charge. Ce qui s'est fait à Bunia, il y a des familles qui sont décimées à Bunia. Des familles, toute une famille décimée. Et malheureusement, je crois qu'on n'en parle pas trop. Il a dénoncé beaucoup de choses, notamment sur la prévention, où, semble-t-il, tous ceux qui sont impliqués sont venus de Kinshasa. On ne prend pas
le personnel local.
Le personnel local. Du fait qu'on ne prend pas le personnel local, ça dérange tous les systèmes de prévention. Donc, il dit que tout le monde vient de Kinshasa, tout le monde suit l'argent plutôt que d'aller
au chevet des
malades. Oui, il lui a dit en Ouganda, ça je dis ce que j'ai entendu de lui, il dit en Ouganda c'est le président lui-même qui est à la tête
de la riposte.
De la riposte. Et il a déjà fait 5 discours sur la riposte. Pourtant, chez lui, les cas ne sont pas assez nombreux comme il en est ici chez nous, donc là où il y a l'épicentre. Vous avez dit qu'ici au sud Kivu, il y a déjà 3 cas, dont un décès.
Un décès.
Dieu fasse qu'il n'y ait pas d'autres cas. Mais je demande, vraiment, je prie ceux qui font la riposte localement de bien le faire, qu'ils ne fassent pas la riposte pour l'argent, mais qu'il les fasse vraiment pour riposter contre cette épidémie-là. Parce que malheureusement, ce genre de choses sont toujours accompagnées par des besoins extrêmement élevés d'argent. Et la riposte n'a plus vraiment la même capacité quand c'est l'argent ou quand c'est vraiment pour,
tout à fait.
Pour lutter contre l'épidémie. Maintenant, quant à ce qui concerne l'Iran
les
États-Unis, c'est une bonne chose qu'il y ait accord entre ces deux-là. Parce qu'aujourd'hui, les grandes menaces aujourd'hui, c'est quoi? Les grandes menaces, c'est effectivement cette guerre-là et l'Ebola. Si tu vois l'actualité internationale, tout ce qu'on refuse comme visa, maintenant, nous sommes des parias du monde. Nous ne pouvons plus. Même au Rwanda, on ne sait plus aller. J'ai même appris que nos joueurs sont menacés de ne pas entrer dans le Canada. Donc, voyez-vous, les deux menaces, l'Iran et les États-Unis, je crois que c'est maîtrisable s'ils ont la volonté. J'espère qu'ils signent aujourd'hui. J'ai appris que les Iraniens refusaient de signer aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est un anniversaire de Trump. On ne veut pas lui donner un cadeau. On ne veut pas lui offrir un cadeau d'anniversaire. Même s'il ne le signe pas aujourd'hui, peut-être demain. Mais malheureusement, là, il reste une question cruciale pour nous, pour le monde entier, je crois, c'est l'ouverture du canal d'Hormuz qui n'est pas figuré dans l'accord qu'ils vont signer aujourd'hui. Or, c'est ce qui nous concerne, le reste du monde, par rapport aux deux. Ce qui nous concerne le plus, c'est de nous ouvrir ce canal-là, que nous ayons les détroits, que nous ayons nos marchandises, que nous ayons le pétrole. Aujourd'hui, ce qui se passe chez nous, voyez-vous, avec 20 dollars, il n'y a pas 4 mois, non, avant le début de la guerre, avec 20 dollars, je pouvais me taper 17 litres de carburant. Mais maintenant, même avoir 10 litres avec les mêmes 20 dollars, c'est compliqué. Et peut-être ça va être encore plus compliqué prochainement. Et je me suis rendu compte que ceux qui gouvernent chez nous n'ont pas eu ce que j'avais dit en son temps. Il fallait quand même subventionner certains produits pour... Kouraïssi Chemaï Chahapa, nikusema pouvoir yenyiko inasema bon kama tulikuwa tunalipa 10 dollars kwa kupitisha camion ya mafuta ya petrole tunaanza lipisha 7 dollars ama 6 dollars juu ya kurahisisha maisha hapa. Malheureusement ça n'a pas été pris en compte. Nous voyons que nos prix suivent suivent exactement
la dynamique internationale.
Oui. Et c'est très grave, c'est très très grave pour nous. Si la dynamique continue, donc nous allons arriver à un litre 3 dollars et qu'on sort. Donc il faudrait que les pouvoirs en place tiennent compte du pouvoir d'achat local. C'est vrai qu'ils ont besoin d'argent, mais ils ont besoin beaucoup plus des gens qui contribuent. Et si les gens qui contribuent n'ont plus rien à contribuer, ce sera dommage.
Ça sera dommage. À mon subissi, moi, commentaire de l'actualité à ce stade.
Merci pour la parole. Au fait, moi, quand j'ai suivi les informations par rapport à la situation qui se vit actuellement à Chabunda, pour ce qui est de la rougeole, j'ai eu difficile à comprendre. Parce que c'est vraiment alarmant. Comme Joseph venait de le dire, on ne comprend pas comment notre gouvernement laisse ou prend avec légèreté les domaines qui racontent les attentes de la population. Et parmi ces domaines, il y a l'éducation, il y a la santé, mais aussi la sécurité. Au lieu que notre gouvernement se penche valablement à ces domaines, il fait semblant. Il y a à peine deux semaines, nous avons parlé de la question de l'Ituri. On a dit que jusque-là, l'Ituri demeure l'épicentre du virus Ebola. Et avec les analyses que nous avons faites, nous avons tous montré que non, c'était à cause de l'irresponsabilité de nos dirigeants, parce que la maladie a circulé pendant plus de mois sans qu'on sache que ce virus existe au sein de la population. Et aujourd'hui, les conséquences sont là. Hier, c'était Ituri. Aujourd'hui, c'est Chabunda. Finalement, on se demande que font réellement nos dirigeants, surtout le représentant de la population qu'on appelle les députés. Parce que un député, c'est quelqu'un qui devrait maîtriser la situation de sa base à chaque minute qui passe. J'ai dit à chaque minute, il devrait avoir toutes les informations dans tous les domaines de sa circonscription électorale. Mais avec la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, on constate avec regret que ces députés ne sont pas partis pour l'intérêt de la population. Parce que, acceptons que le gouvernement national, mais à ce que je sache, le gouvernement national doit être partout, même dans les fins fonds de la République. L'autorité de l'État doit se faire sentir. Mais s'il faut parvenir à ce stade, vous avez dit combien de morts déjà pour ce qui est des enfants?
En fait, depuis février, on est à 700 décès en territoire de Chabunda. Il faut signaler que en moins de deux semaines, la zone de santé de Chabunda a enregistré 144 décès. Par semaine, on enregistre pratiquement 80 décès dus à la rougeole et d'autres maladies, notamment le paludisme et souvent la malnutrition.
Expédie, soyons quand même sérieux. Et ceux qui lisent ce genre d'informations qui proviennent de la RDC, comment ils nous prennent? Est-ce que réellement ils disent que la RDC est gouvernée? Et quand beaucoup de gens le disent ainsi, ils deviennent des aînés, ils deviennent des je ne sais qui, mais les informations que nous recevons de partout prouvent à suffisance que le pays n'est pas gouverné.
Merci beaucoup, Amos.
N'est pas gouverné.
Merci beaucoup. Nous recevons dans ce studio Mupira Mambo, qui est observateur de la scène politique. Il est député national honoraire de 2003 à 2006. Ignace Mupira, est-ce que... D'abord, bonjour à vous et bienvenue.
Bonjour, Expédie. Merci pour l'invitation. Je salue également les co-débatteurs autour de ce micro.
Est-ce que vous êtes au courant de la situation de Chabunda avec la rougeole? Si oui, comment on peut organiser la riposte, considérant le contexte du moment où la DPC est à Bukavu, mais les aéroports de Goma et de Kavumu sont fermés? Donc on imagine qu'il est difficile aujourd'hui d'acheminer les intrants, disons les médicaments ou les kits pour la vaccination à Chabunda. Faut-il se tourner Kindu, au Maniema, pour contenir la situation aujourd'hui?
Oui, c'est, je peux dire que c'est apocalyptique, parce que le territoire de Chabonde est un territoire qui est enclavé, et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est plus de 30 ans qu'il y a des coins où on n'a plus jamais vu un véhicule passer de ce côté-là. Et Chabonde était approvisionné principalement et presque uniquement par avion, et les avions qui venaient de Bukavu, de Goma. Aujourd'hui, les avions viennent de Beni. Mais les avions qui viennent de Beni pour Chabunda viennent à compte-goutte. Et principalement, ce sont des avions affrétés par des commerçants, qui transportent les produits pour eux des premières nécessités, comme les boissons Simba, la liste est longue, hein. Les boissons qu'on appelle gentiment, fortement alcoolisées, mais mortelles. Voilà, c'est ce qu'ils appellent produits de première nécessité. Cet enclavement fait que l'enclavement a affecté tous les secteurs de la vie de ce territoire-là. Aujourd'hui, c'est le domaine de la santé, malheureusement. Il y a le domaine de l'humanitaire. Il y a même un enclavement, je m'excuse, intellectuel. Parce que pour développer l'intellect, pour pouvoir débattre, pour pouvoir être informé, il faut être en contact avec d'autres peuples, de voisins, etc. Cet enclavement crée des pénuries qui vont de produits alimentaires de première nécessité, le savon, le sel. Parce que tout venait de Bukavu, même le riz, la farine vient de Bukavu désormais et malheureusement, alors que le sol est un sol tout à fait cultivable, etc. Donc c'est très très malheureux. Heureusement, que les structures de santé font quand même des statistiques. À défaut de soigner les gens, ils comptent quand même les morts. Et c'est grâce à ces structures que nous savons que nous sommes à 700 décès
depuis février
2016.
Essentiellement des enfants, en fait.
La rougeole prend généralement les enfants, parce qu'il n'y a plus de vaccination. Le circuit de vaccination, aujourd'hui, avec le négativisme ou le scepticisme qui a atteint pas seulement l'Afrique, le Congo, mais vraiment les Congolais, on doute de tout. On a parlé d'Ebola ici, et quand on parle de vaccin au Congo, on dit que tout copé à boile, puis on t'offre tout l'art. Et donc je crois que comme Chabunda est contrôlé par
le gouvernement
de la République, ils ont donc le moyen d'obtenir des médicaments qui viennent des médecins et des médicaments qui doivent venir de Kinshasa, et il faut interpeller le ministère de la Santé et toutes les structures de la santé. Les médecins existent et les structures existent, je dis, c'est grâce à leur présence là-bas que nous avons quand même des statistiques. Et donc Chabunda est un cas qui nécessite
une
task force. Pas seulement une task force, comme j'entends, de lutter contre l'insalubrité à Kinshasa. Il faut une task force pour réintroduire les vaccins anti-rougeole à Chabunda et pour soigner les cas qui existent là-bas et qui risquent de se multiplier par autant de tonnes de négligence que nous observons de la part de ceux qui nous dirigent.
Merci beaucoup. Amani Maindeleo, votre commentaire à ce stade.
Oui, 80 décès par semaine, c'est trop. C'est quand même interpellateur. On ne peut pas comprendre qu'avec un nombre comme celui-là, les gens puissent ne pas chercher le plus urgentement possible des solutions à ces problèmes. Et pour ces cas, c'est vrai, la première responsabilité revient à ceux-là qui ont des moyens, qui sont dotés de moyens de puissance publique, qui peuvent apporter la solution le plus rapidement possible. Mais surtout aussi, cette population doit vraiment comprendre qu'il y a une vie à préserver. Et si on comptait rapidement, si ces autorités qui, en un certain moment, font semblant de ne rien reconnaître, ça va encore s'empirer. Et donc, c'est à eux, par exemple, à leur niveau, de respecter, en tout cas, le vaccin, comme
si, le petit honneur
venait de le dire, que c'est aussi ça le problème de notre peuple. Même en plein centre-ville, vous trouvez des gens qui ne croient plus au vaccin. Des gens qui vous disent, mais si nous prenons ces histoires, on va mourir. Il y a même des discours qui vont dans le sens, non, si vous prenez ces histoires, l'enfant plus tard ne va pas mettre au monde. Vous voyez, c'est compliqué. Et je crois qu'à ce niveau où c'est un peu reculé de la ville, les gens peuvent réfléchir ainsi. Or, actuellement, il y a que ce vaccin qui peut aider cette population à s'en sortir de cette situation en attendant l'intervention des autorités, parce que, en tout cas, 80 décès par semaine, c'est déjà trop, et les autorités doivent être vraiment mises en contribution, parce que les gens dans ce pays se concentrent plus à la politique au lieu de s'intéresser à la population. Et donc, pour moi, que ce soit nos autorités, que ce soit la population au niveau de Chabunda, et tout le monde doit vraiment intervenir pour apporter une solution le plus jamais possible.
Merci beaucoup. Donc, nous allons clôturer cette partie. Docteur Joseph, juste 30 secondes.
En 30 secondes, je voudrais que l'on fasse la part de choses, c'est de grâce. La question sanitaire dans des épidémies comme ça est une question extrêmement sensible dont l'analyse ne doit pas faire porter la responsabilité sur la population uniquement ou pas. Il faut faire attention. La baisse des épidémies dans le monde n'a pas été d'abord liée essentiellement à la vaccination. Elle a été liée à l'évolution des mesures hygiéniques, à l'alimentation et aux autres à l'organisation de la société, de sorte que vous voyez par exemple la malaria. Vous ne contenez pas la malaria par la vaccination. Vous la contenez par l'assainissement des services. Vous ne contenez pas le choléra par la vaccination, même si c'est la tendance qu'on veut proposer. Vous la contenez par... Ce sont des maladies de mains sales et des autres. Donc,
l'accès à l'eau potable,
ainsi de suite. Donc, pour moi, je le souligne, la résolution de cette question... J'ai évité toutes les considérations conjoncturelles. J'ai évité de parler dans mon propos de questions aiguës. Je parle des questions structurelles et de fond. Il est de la responsabilité de ceux qui gouvernent le peuple congolais de savoir que nous en avons assez qu'on gère régulièrement des crises. Nous voulons être un pays normal où des gens ont la chance de vivre, de grandir. Nous voulons savoir que les gens peuvent grandir en bonne santé et que les mesures ensuite pour accompagner cela, nous les accueillons à bras ouverts, mais en sachant qu'un corps fragile de malnutrition, même si vous le bombez de 1000 vaccins, il mourra.
Merci beaucoup. Donc,
peut-être je peux ajouter une petite chose. En fait, c'est à quoi nous sommes en train d'assister, c'est quoi? Depuis plusieurs années, mais malheureusement, nous ne nous en rendons pas compte. Et nous ne prenons pas compte de cela. Nous avons un pays, la République démocratique du Congo, 2 345 000 km², 410. Donc. Mais nous n'avons plus d'État. Ça, les gens ne se rendent pas compte. Nous n'avons plus d'État. L'État congolais n'existe plus, en réalité. Parce que l'État, c'est quoi? L'État, c'est pas le pays. L'État, c'est la capacité d'un pays de prendre ses citoyens en charge. C'est ça qu'on appelle l'État. Si la santé ne marche plus, s'il n'y a plus d'infrastructures, si l'éducation, ça ne marche pas, où est l'État? L'État, ça veut dire que l'État n'existe plus. Et sur cet état-là, donc c'est assez, nous devons nous battre pour ça, en fait. Nous devons nous battre pour avoir un État qui fonctionne. C'est grave. Comme il a dit, la santé, les épidémies comme ça. C'est vrai, Moupira l'a dit, il n'y a plus d'aéroport tout autour, il faut venir de Bounia,
de Beni.
Mais pour Chabunda, c'est juste venir d'à côté, de Kindu.
De Kindu.
Il y a un aéroport à Kindu. Hein? Il y a des petits aéroports à Chabunda, il y a
des aéroports.
Cette question devrait être prise en charge très très sérieusement. Donc, si nous avions un État dans ce pays, malheureusement nous avons un pays, mais vraiment l'État, excusez-moi, comme disait le vieux Karigamir à l'époque, je crois qu'ils étaient avec Moupira, l'État fire. Ça veut dire quoi? L'État est mort et il est mort sans avoir eu d'enfant.
Merci beaucoup. Il faut donc rappeler l'État congolais a assumé pleinement ses responsabilités. 30 secondes avant ça.
Oui, merci pour ces dernières 20 secondes. Entendre Amani, on dirait qu'on a apporté des vaccins aux enfants de Chabunda et ils ont refusé d'en prendre. C'est là ses propos. Et moi, je pense que nous devrions apprendre à être conscients et nous dire, parler de 80 morts par semaine. Non, ça devait révolter tout le monde. Et je ne vois pas quelqu'un qui peut se mettre à défendre une telle catastrophe.
Merci beaucoup.
Parce que dans peu de jours, si rien n'est fait dans l'extrême urgence, Chabundo Titaïche.
Merci, Amani.
Je crois qu'il m'a mal suivi. Je n'ai pas dit que la population de Chabunda a rejeté le vaccin. J'ai commencé par dire oui, que la première responsabilité revient au gouvernement. J'ai même dit que c'est au gouvernement, c'est le gouvernement qui est doté de moyens pour faire face à une telle situation. Mais juste pendant une nuance, qu'il revient aussi à la population. Parce que.
L'État est absent.
Oui, en attendant. Parce que quand vous voulez que le gouvernement intervienne tout de suite, alors que ce n'est pas le cas chez nous, bon, c'est vrai que. Mais les gens sont en train de mourir. Mais pour éviter qu'il y ait autant de morts, la population peut chercher. C'est ce qu'on disait ici. Nécessaire qu'en respectant quelques mesures. Oui, c'est ça ce que
merci
je disais.
Beaucoup, merci beaucoup. Moupira.
Oui, merci. Il y a. Quand on parle de l'absence de l'État ou de la déliquescence de l'État, l'administration a disparu. C'est l'argent qui est resté. Même quand vous allez dans chez les plus jeunes, hein, nos enfants, quand vous leur demandez, vous voulez devenir ministre pour faire quoi? Il vous dit, viens, n'amène pas tata mago kidogo. Et donc, tout le monde sait que être président, c'est avoir l'argent. Être ministre, c'est pour l'argent. Être gouverneur, c'est pour l'argent. Amener les médicaments, c'est pour l'argent. Parler d'Ebola, c'est pour l'argent. Et donc, l'argent habite tellement les cerveaux des gens que l'argent a remplacé.
Dans la réponse de la Rougeole, il n'y a pas d'argent. Ça n'intéresse personne.
Oui, enfin, non. La population a intégré cela. Et ce n'est pas seulement la population de Chabunda. La résurgence des maladies autrefois éradiquées au Congo, ce n'est pas seulement Chabunda. La rougeole a commencé au Kasaï. Au Kasaï, et j'ai dit au Kasaï, je sais pourquoi je le dis. Et puis à l'Équateur. Il y a quand même de grandes personnalités là-bas qui portent de jolis costumes, qui ont beaucoup d'argent, même qui ont même des avions. Mais chez eux, la rougeole tue les enfants. Maintenant, aujourd'hui, c'est Chabunda, 80 morts par semaine, c'est apocalyptique. Dans un espace où il y a de moins en moins de naissances à cause de la présence des carrés miniers, à cause de la consommation des histoires fortement, etc. Et ça diminue le nombre de naissances, même la qualité, la capacité. C'est comme un territoire au Maniema où on avait fait des enquêtes et les femmes disaient si mukto c'est quoi ma pombe à Kanyanga, batona que t'es na babona et tout. Donc c'est pas le cas à Chabunda, mais nous parlons de mesures qui doivent être prises très vite pour soigner la variole et vacciner ceux qui n'ont pas encore été atteints.
Merci beaucoup. 8h45 à Bukavu. Nous observons une pause de 30 secondes et nous revenons pour ouvrir le chapitre débat. Exactement, 8h46, la suite de l'émission Paix et Développement de ce jour. Le sit-in projeté vendredi par l'opposition congolaise au Palais du Peuple à Kinshasa a tourné au vinaigre, malgré l'interdiction de l'organisation de cette activité par l'hôtel de ville de Kinshasa, au motif que le Palais du Peuple est un siège inviolable. Les opposants réunis au sein de la coalition C64 ont bravé la peur en y conduisant leurs militants. Selon des sources à Kinshasa, les entrées menant au Palais du Peuple ont été barricadées par un dispositif de la police déployée sur les lieux aux petites heures de la matinée en essayant de franchir la ceinture policière vers le boulevard Triomphal. De heurts ont été signalés entre militants des partis de l'opposition et la police nationale congolaise appuyée par la force du progrès de l'UDPS. Plusieurs militants ont été blessés et conduits dans des jeeps de la police et dans les structures sanitaires, l'on rapporte. Aussi que Jean-Marc Kabunda, Kabunda, Martin Fayoulou, Délice Sanga, Ados Ndombassi ont été blessés dans ce heurt. Le siège des partis politiques comme les CID, l'ADD Congo et Ensemble ont été saccagés par des soi-disant membres de la Force du Progrès, une branche jeunesse élue des PES. Augustin Bissimon, secrétaire général du parti politique MDVC, cofondateur de la coalition de la gauche congolaise dirigée par Jean-Marc Kabunda, indique à ce stade: les recherches sont en cours pour déterminer le nombre exact des blessés et des dommages matériels. Il estime que quelle que soit l'oppression du régime en place, l'opposition congolaise ne va pas fléchir. Augustin Bissimon a été joint au téléphone quelques heures après cette manifestation.
Vous êtes dans les environs du palais du peuple à Kinshasa aux côtés d'autres opposants congolais. Vous vous êtes mobilisé pour participer à un sit-in à l'Assemblée nationale pour vous opposer au projet de changement de la Constitution. Mais l'initiative que vous avez initiée a été interdite par l'hôtel de ville de Kinshasa et l'activité a été sanctionnée par des scènes de violence. Nous apprenons qu'il y a plusieurs blessés. Est-ce qu'à ce stade on peut savoir le nombre des blessés et les dommages qui ont été causés dans ces heurts ou disons dans ce mouvement d'opposition entre la police et vous opposants?
D'abord, il faut dire de prime abord que c'est difficile de donner les bilans global parce qu'on continue à faire des monitoring, mais à cet état déjà on peut dire qu'il y a le président Jean-Marc Kabounds qui a été blessé, il y a le président Martin Fayoulou, il y a l'honorable Adon Ndombassi qui a été blessé par balle, et donc il y a beaucoup d'autres militants qui ont été blessés. Et jusque-là, en tout cas, on n'a pas encore les bilans globales, on continue à faire le monitoring. Cependant, il faut retenir que c'est vraiment déplorable dans un état de droit et qu'on puisse connaître de telles scènes. Lorsqu'on sait que nous sommes dans un régime d'information et non d'autorisation, nous avons écrit il y a une semaine à l'hôtel de ville, lui annonçant évidemment qu'on allait faire notre sit-in au palais du peuple pour s'opposer contre les changements de la constitution qui cassent les troisième mandats. Mais décidément, ils ont interdit notre manifestation. C'est comme ça que, n'étant pas dans un régime d'autorisation, nous avons tenu en tout cas à aller déposer notre mémo au palais du peuple, là où la loi est en train d'être examinée. Déjà, elle a été votée à l'Assemblée nationale et va être transmise au Sénat pour seconde lecture. Et donc c'est là qu'il fallait qu'on dépose notre mémo. Mais l'hôtel de ville a orienté dans un autre site
monsieur,
qui n'a rien à voir.
Monsieur Augustin Bissimon, pourtant l'hôtel de ville a autorisé votre sit-in, mais a demandé que vous puissiez l'organiser dans la commune de Kasavubu et non au palais du peuple, estimant que c'est un lieu inviolable.
Non, mais c'est du n'importe quoi, parce que dans les semaines passées, il y a les confessions religieuses soutenant les changements de la constitution, avec à la tête les pasteurs Etiva Yamafia qui a organisé là-bas des cultes d'action de grâce. Et il y a également le ministre Gassetino qui a organisé là-bas des manifestations devant les palais du peuple. Alors pourquoi pense l'opposition c'est inviolable? Mais lorsque c'est l'union sacrée, c'est pas inviolable. Il y a aussi, la fois passée, la marche de l'UDPS soutenant évidemment la sanction contre Joseph Kabila. Cette marche a eu comme point d'échec au palais du peuple. Et donc pourquoi à ce moment-là, ça n'a pas été inviolable? Pourquoi c'est inviolable lorsqu'il s'agit de l'opposition? Et donc je pense que la peur a changé de camp. Si hier on parlait de l'opposition YPT ou l'opposition facile, l'opposition Anzala, aujourd'hui on a vu un dispositif sécuritaire, n'est-ce pas, qui a été mis en place. On a vu l'armée mobilisée partout à Kinshasa, on a vu la garde républicaine, la police soutenue par les milices de l'UDPS avec machette à la main. Et donc nous pensons que c'est déplorable. J'ai l'impression qu'on voulait, n'est-ce pas, intenté à la vie de Jean-Marc Kabound et Martin Fayoulou, et on a l'impression que le projet était de pouvoir vraiment couper la tête de l'opposition pour l'affaiblir davantage. Mais nous n'allons pas baisser la garde, nous sommes dans un état de droit, on va continuer jusqu'à ce qu'ils fléchissent. On ne peut pas entamer les changements de la Constitution pendant que l'Est est dans les centres. Donc on ne peut pas aujourd'hui, la priorité c'est d'abord la paix et la sécurité. C'est la restauration de l'autorité de l'État. Si on veut balkaniser ce pays, nous allons nous opposer contre tout plan de nature à balkaniser ce pays. Et donc on n'est pas d'accord avec ça. Messieurs les journalistes, écoutez, pourquoi changer la Constitution? La Constitution ici a 229 articles. Et de ces 229 articles, il y a seulement 8 matières qui sont interdites de révision parce qu'elles appellent d'intangibilité. Comment est-ce qu'on peut empêcher un gouvernement à réviser d'autres matières, mais il se met parce que l'article 210 autorise la révision de la Constitution? Mais d'où vient que, pour adapter la Constitution aux réalités actuelles, ils veulent à tout prix changer la Constitution alors qu'il y a la révision qui est autorisée? Et donc, nous pensons qu'ici, c'est tout à fait clair que l'on veut permettre à Tshisekedi d'avoir un autre mandat pour rester éternellement. Et nous, nous disons, nous ne voulons pas, en tout cas, nous disons, ça ne passera pas, à moins qu'on tue tout le monde.
Et qu'allez-vous faire pour faire entendre votre voix, sachant que la police n'a pas été tendre avec vous aujourd'hui?
Non, il y a toute une autre série de manifestations prévues, et donc on ne va pas, s'ils sont déterminés à tuer tout le monde, nous allons lâcher que lorsqu'on aura tué tout le monde. Et c'est ça les combats, on va continuer, et donc nous pensons, on a constaté évidemment qu'ils sont armés, nous venons main nue, mais main nue on va les plaquer au sol, jusqu'à ce qu'il arrête avec ses projets macabres tentant à balkaniser notre pays, et ses projets tendant évidemment à avoir un troisième mandat, et parce que ça, c'est un recul démocratique. Et déjà on a accepté avec les constituants originaires, on a accepté principe soit, n'est-ce pas, de mandat dictatif. Mais lorsqu'on veut rester au pouvoir tous les jours, et on nous dit tant que Kagame sera là, tu sais qu'il va rester au pouvoir, mais est-ce que sur plus de 100 millions d'habitants, tu sais qu'il est le seul intelligent, mais entre-temps, est-ce que nous sommes ici dans ce qu'on appelle Kiberdan? C'est celui-là qui n'a pas réussi à maintenir l'intégrité du territoire national, c'est celui qu'on veut encore qu'il reste, c'est celui-là qui, jusqu'au stade actuel, n'a pas réussi, n'est-ce pas, à asseoir l'économie de notre pays. C'est celui-là qui n'a pas réussi à stabiliser, n'est-ce pas, les cadres macroéconomiques. C'est celui-là qu'on veut qu'il continue. Mais on est dans quel pays, là? Vous héritez un pays réuni dans tous ces territoires, dans tous ces 145 territoires. Et vous perdez certains territoires parce que vous n'avez pas été en mesure de sécuriser la population, et c'est vous qui réclamez qu'il faut à tout prix que ce soit vous. Nous disons non, ça ne passera pas.
Monsieur Augustin Bissimwa, pourquoi vous voulez essentiellement un coup de force? Pourtant, par voie de référendum, le souverain primaire peut décider ou non de changer ou de maintenir l'ancienne constitution.
C'est une absurdité. Est-ce qu'il y a un référendum qu'on organise pour poser la question à la population si oui ou non il faut changer la constitution? Non, mais quand vous lisez la loi référendaire, vous allez constater qu'à partir de l'article 4, vous allez aussi à l'article 40, 41, 42, eh bien, cette loi-là donne une mission supplémentaire aux parlementaires. Entre-temps, la Constitution, à son article 100 et 101 et suivant, donne, a déjà clarifié les vraies missions des parlementaires, en ce que ces missions sont à trois. Celle de légiférer, de créer et de représentation. Mais cette loi donne aux parlementaires une seconde mission, n'est-ce pas, de rédiger la Constitution et de s'émuer en assemblée constituante. Qui lui a donné cette mission-là? Parce que le pouvoir du parlementaire, en tant que pouvoir, n'est-ce pas, constituant dérivé, c'est un pouvoir limité seulement à la seule révision. Mais lorsqu'on lui donne par une loi une autre mission que la Constitution ne lui a jamais conférée, eh bien, nous sommes dans une grave violation. Entre-temps, l'article 5, ils sont en train d'interpréter à tort et à travers, et la Constitution a prévu trois cas seulement dans lesquels on peut organiser un référendum. Nul n'a jamais pensé au référendum constitutionnel. La Constitution ici n'a jamais pris ces mécanismes. Il y a à l'article 2, vous trouvez un référendum lorsqu'il s'agit de déplacer la capitale dans une autre ville. Vous êtes à l'article, n'est-ce pas, à l'article 140, où on vous dit qu'on peut passer au référendum lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de céder un territoire. Plutôt 114. Alors, on vous dit qu'il faut procéder au référendum lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de la révision de la Constitution. Nous sommes à l'article 218. Et là, on dit que toutefois, il n'y a pas de référendum lorsque le Parlement adopte aux trois quarts. Et donc, on ne sait pas, on est dans quoi, sincèrement. Donc, j'ai parlé de l'article 214 qui nous dit qu'il y a référendum lorsque l'on veut céder un territoire. Mais jamais un référendum sur la destruction de la Constitution, parce que la Constitution ne prévoit pas ces mécanismes d'autodestruction. Elle prévoit plutôt les mécanismes de protection. C'est qu'à l'article 74, le président de la République prête serment et il s'engage devant Dieu et devant la nation à respecter la Constitution, défendre l'intégrité du territoire national. C'est ainsi qu'à l'article 64, alinéa 2, on vous demande, on vous dit que toute violation de la Constitution constitue un renversement, n'est-ce pas, de l'origine du régime constitutionnel et qui constitue une infraction imprescriptible de la haute trahison. Et donc, nous sommes là en train de parler droit. C'est-à-dire que ici, si on veut parler du changement de la Constitution, il faut que ce soit, que ça soit clair. Il ne s'agit pas là d'un débat juridique, c'est un débat politique qui rencontre les coups d'État, qui rencontre, n'est-ce pas, la rébellion contre les institutions et contre les régimes constitutionnels. Et là, tout citoyen a le devoir de faire échec à tout cela qui veulent, n'est-ce pas, prendre le pouvoir par la violation de la Constitution. C'est ça le débat.
Augustin Bissimon, nous vous disons merci. Augustin Bissimon, qui est secrétaire général du parti politique MDVC, cofondateur de la coalition de la gauche congolaise dirigée par Jean-Marc Kabunda Akabunda. Il a été joint au téléphone à quelques minutes de la fin de cette manifestation. L'opposition congolaise parle de 2 morts et plusieurs dizaines de blessés. Plusieurs organisations de défense des droits humains RDC, comme à l'étranger, dénoncent un usage excessif de la force et réclament l'ouverture d'une enquête indépendante. Elles appellent également les autorités à garantir les libertés publiques et à faire toute la lumière sur les violences qui ont émaillé cette manifestation. Parmi les premières réactions figure celle de la voix des 100 voix. Dans un communiqué publié vendredi, l'organisation dénonce une répression musclée, sanglante et disproportionnée. La nouvelle société civile congolaise exprime une préoccupation similaire. Elle condamne des actes de brutalité policière contre des citoyens exerçant leur liberté de réunion et de manifestation garantie par la Constitution. L'International Human Rights Watch est également monté au créneau. Sur les réseaux sociaux X, sa directrice de la division crise, conflits et armées de l'organisation Ida Soyer affirme que plusieurs responsables de l'opposition, dont Martin Fayoulou, Jean-Marc Kabound et Sessanga, figurent parmi les blessés lors des affrontements. Elle évoque également des attaques contre le CSDD-CID. Partie de l'opposant, Fayoulou estime que les libertés d'expression et des réunions pacifiques doivent être pleinement respectées. Le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, a condamné également la dispersion par la force de ce sit-in de l'opposition, qualifiant l'intervention des forces de sécurité de répression sanglante et appelant à une mobilisation internationale contre ce qu'il décrit comme un coup d'État constitutionnel en gestation. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, principal composant du Front commun pour le Congo FCC, a exprimé sa profonde indignation et condamné avec fermeté la répression ayant visé les participants à cette marche. Dans un communiqué, le PPRD rappelle que cette mobilisation citoyenne avait été annoncée publiquement plusieurs jours à l'avance et avait fait l'objet d'échanges préparatoires avec les organisateurs. De son côté, l'UDPS projette une communication ce dimanche. Dans un communiqué également publié samedi, le gouvernement de la République a condamné les incidents survenus lors de cette manifestation. Il annonce l'ouverture des enquêtes pour établir les circonstances exactes des faits et appelle les acteurs politiques à la retenue et à la responsabilité. Selon le gouvernement, les informations communiquées par les autorités urbaines font état des blessés parmi les manifestants et les forces de l'ordre. D'importants dégâts matériels ont également été enregistrés, notamment l'incendie de plusieurs véhicules ainsi que la destruction des biens publics et privés. Face à cette situation, le gouvernement indique que le ministre d'État en charge de la justice a rencontré les responsables des formations politiques concernées afin d'échanger sur les circonstances des événements et d'en évaluer les conséquences, tout en réaffirmant son attachement aux libertés publiques garanties par la Constitution, notamment la liberté d'expression des réunions et des manifestations pacifiques. L'exécutif rappelle que l'exercice de ses droits doit se faire dans le respect des lois de la République de l'ordre public ainsi que de la sécurité des personnes et des biens. Le gouvernement annonce par ailleurs avoir instruit les services compétents de mener les vérifications nécessaires afin de faire toute la lumière sur les incidents enregistrés. Enfin, le gouvernement appelle les acteurs politiques et de la société civile à faire preuve des retenues des responsabilités tout en privilégiant les mécanismes légaux et institutionnels pour préserver la paix, la cohésion sociale, la cohésion nationale et la stabilité du pays, selon donc le gouvernement de la RDC. Amos Bissimon, vous êtes de Sauvons la RDC. Réaction à chaud de l'organisation de ce sit-in à Kinshasa qui a été réprimé par la police nationale congolaise.
Merci. Je tiens d'abord à dire que la constitution qu'on est en train de vouloir changer, à son article 26, est clair par rapport à l'organisation des actions citoyennes de la rue. Nous tous, nous avons lu la lettre d'information des organisateurs de ces sit-ins. Malheureusement, et tel que nous l'avons tous suivi, le gouvernement a aussi, ou le régime Félix, a aussi organisé les siens pour d'autres actions. Et pourtant, selon cet article, on ne peut pas autoriser que deux groupes organisent des actions citoyennes de la rue le même jour et au même endroit. Je pense que ce qui est en train de se faire ou ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui commence à nous donner raison. Il y a un temps, ici, sur ce plateau, nous avons dit ce plan diabolique de vouloir changer notre constitution aura des conséquences. On risque de perdre les gens, il y aura des blessés, mais aussi des casses. Personne ne nous a entendu. On nous a dit non, c'est clair, on peut. Parce que des gens ne manquent pas de termes, surtout nous Congolais. Nous ne manquons pas de termes pour flouer le peuple. Et ce sont des professeurs qui vont se présenter. Je suis prof en droit, je ne sais quoi, c'était assistant, je ne sais qui. Mais il faut voir ce qu'il est en train de défendre. J'avais dit ici, si réellement le président Félix, que nous respectons, avait réellement l'intention d'aider le peuple congolais et qu'il a compris que c'est la constitution qui ne va pas lui permettre de bien faire son travail, il allait initier cette aventure au début de son premier mandat. Et non à la fin du deuxième et dernier mandat. Toutes les explications qu'on peut donner ne tiennent pas debout. Ne tiennent pas debout par rapport à ces démarches. Et surtout, je ne vais pas parler aussi du contexte dans lequel nous sommes actuellement, selon l'article 219 de la même constitution. Et moi-même, j'ai eu à dire en quoi l'actuelle constitution bloque les institutions à nous construire des routes, à donner au peuple congolais les soins de santé de bonne qualité. Nous venons de parler ici de la situation à Chabunda, du virus Ebola en Ituri. En quoi la constitution actuelle a bloqué Félix à construire les routes, à nous donner la paix à l'Est? Est-ce que c'est cette constitution qui demande aux proches du président Félix de détourner l'argent du contribuable congolais à longueur de journée? La réponse dit non. Est-ce que si on change cette constitution, les mêmes collaborateurs du président Félix ne vont plus détourner l'argent du contribuable congolais? La réponse dit non. Et on a compris que c'est une manœuvre de vouloir éterniser Félix au pouvoir. Maintenant, s'agissant de l'activité du vendredi, il y a eu d'abord la première activité qui avait été organisée par l'opposition. Et moi, j'avais dit
la journée ville morte.
La journée ville morte. Moi-même, à la veille de cette journée ville morte expédie. Parce que dans l'opinion, on disait que Kinshasa est acquis à l'IDPS. C'est ce qu'on disait aux gens. Et moi-même, j'ai vu certains cas de l'IDPS écrits dans les réseaux sociaux. Nous maîtrisons les actions de l'ARI.
Parlons du site. On a évalué la première activité.
Nous maîtrisons les actions de l'ARI. Nous avons été dans l'ARI pendant plus de 37 ans. Mm-hmm. Mais avec la journée ville morte, on a compris que c'était un message que le peuple congolais a lancé à Félix et lui dire ce que tu veux faire, ça ne passera pas. Et pourtant, Félix avait dit dans son point de presse que si le peuple congolais lui accorde le troisième mandat, il est prêt.
Maintenant, si réellement il serait patriote, il allait dire avec la première activité de l'opposition, je comprends que je ne suis pas avec le peuple. Le peuple congolais n'a plus confiance en moi. Maintenant, l'activité du vendredi. On a dit non, opposition à Pété, comme Augustin Bissima l'a dit, opposition à Nzala ne fera absolument rien. Quand j'ai vu moi-même la mobilisation le matin, je me suis dit, et Indi. Et que ceux qui pensent qu'ils sont avec Félix, ils sauront dormir. Maintenant, en voyant ce qui s'est passé cette journée-là, c'est vraiment alarmant. On parle des morts. On parle de morts à Kinshasa, certains parlent de deux morts, d'autres parlent d'une dizaine. On attend les rapports et la réalité sera là. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé par rapport aux informations à notre possession? L'opposition qui organise son activité, l'IDPS, avec sa milice qu'on appelle abusivement Force du Progrès, a porté des tenues de la police. Et il revient maintenant au ministre de l'Intérieur, c'est à lui qu'on va poser des questions. Malheureusement, il est de l'IDPS. Comment cette milice de l'IDPS a eu des uniformes de la police? C'est une question cruciale. Et ces gens, parmi eux, il y avait même ceux qui avaient des armes, d'autres des armes blanches. Des armes à feu, d'autres des armes blanches. Et il faut voir les images qui circulent sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Et je me dis, dans un état sérieux, où nous avons les services de sécurité, mais l'IDPS, c'est depuis 2022 qu'on avait dénoncé cette milice de l'IDPS. Je me souviens même, il y a un honorable de Walikale, Mounoubo, qui avait écrit à l'époque, il avait interpellé le ministre de l'Intérieur à l'époque, qu'il vient donner des explications devant les députés par rapport à cette milice de l'IDPS. Mais rien n'a été fait. Le problème, c'est quoi? Moi, je pense que ceux qui sont à la base de ce qu'on a vécu le vendredi à Kinshasa, les premiers à condamner, ce sont nos députés. Ce sont nos députés, parce que n'eût été le vote de cette loi que nos députés ont fait passer par manipulation pour vouloir faire plaisir à quelqu'un qui a échoué à répondre aux attentes du peuple congolais, on ne sait pas à quel prix, certains gens parlent qu'ils auraient été motivés financièrement, et on connaît les modes opératoires au Congo. On ne vivrait pas ce qu'on est en train de condamner aujourd'hui. Et ce que je ne parviens pas à comprendre, en 2016, Félix, le président actuel, a manipulé les gens. On a encore les audios. Qu'on ne puisse pas changer la constitution. Il y a des gens qui sont morts. On peut parler de Thérèse Kapangala, mais aussi Rossi Mukendi et beaucoup d'autres. Qui sont morts parce que Félix Tshisekedi demandait aux gens, refusons le changement de la constitution parce que ce n'est pas la constitution qui bloque Kabila à répondre aux attentes du peuple congolais. Aujourd'hui, Félix encore fait tuer les gens en demandant aux gens, en voulant changer la même constitution. Merci. Moi, je ne parviens pas à comprendre. Merci les beaucoup. Gens, je suis en train de chuter, les gens qui peuvent continuer à soutenir Félix, je ne sais pas comment ils comprennent. Quelqu'un qui fait tuer les gens en 2016, pour ne pas changer la constitution, il fait encore tuer les gens en 2023 pour changer la même constitution.
Au nom de la liberté d'opinion et de pensée, nous comprenons peut-être les impressions des gens qui sont de l'autre côté.
Tout à fait. Justement, nous sommes dans la démocratie, mais la démocratie ne signifie pas soutenir la trahison.
Merci beaucoup.
Ça n'a pas de sens.
Merci
soutenir
beaucoup.
De n'importe quoi.
Merci beaucoup, Amos. Joseph, à ce stade, nous parlerons de la réussite ou de l'échec de cette initiative d'opposition.
C'est une réussite. C'est une réussite parce que ils ont quand même eu le courage de se dire que, bon, on, même s'il y a cette interdiction ou ce déplacement du lieu prévu pour l'activité, ils ont quand même fait quelque chose et ils ont envoyé un message. Et cette réussite n'est pas celle de l'opposition. Parce que l'opposition a été suffisamment forte. Mais qu'on m'excuse de le dire, mais parce que le pouvoir a été suffisamment bête. Comment est-ce que vous savez que les gens sont dans un processus, vous vous dites que c'est démocratique le processus que vous faites. Eux aussi, ils vous demandent juste de leur donner la possibilité d'exprimer, par ce même droit légitime que vous vous accordez démocratiquement, la possibilité de dire leur avis. Et que vous savez que vous, par exemple, institutionnellement, vous venez de poser ici une question très intelligente. Est-ce que on ne peut pas tous se dire, bon, très bien, essayons, et que la population tranche, je dis, dans l'hypothèse, et qu'on se dise, on va aller au vote calmement, mais de façon inclusive. Alors, vous, vous venez avec vos arguments, les autres viennent avec les autres arguments, les autres tranchent. Mais si vous, vous vous donnez le droit d'engager ces processus, entre-temps, vous réprimez ceux qui pensent contrairement à vous, vous vous piégez vous-même. Et le pouvoir est suffisamment bête pour créer les conditions dans lesquelles tout ceci va déraper. Vous ne pouvez pas réprimer des gens par le sang alors que vous savez que tout le monde sera énervé à la fin. Et ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Vous ne pouvez pas être dans une situation où on vous dit que c'est sensible. Augustin Bissimois nous a fait une présentation magistrale. Il n'est plus nécessaire de revenir sur le fond. Tout est verrouillé dans cette constitution. Je veux dire une chose. Une chose que nous devons retenir, en tout cas par rapport à ce que nous pensons. Cette constitution a été faite pour des gens que nous ne sommes pas. Cette constitution est faite, vous avez fait un travail pour des gens, pour des brutes en fait. C'est une parfaite constitution qui n'est pas adaptée à l'homme qui est au pouvoir actuellement ou qui a été hier. L'unique façon de changer cette constitution, c'est de faire un coup d'État. Et l'autre façon, c'est de se dire, comme on est tous ici sur la table, on s'est dit on va déplacer ces tables, cette constitution est faite de sorte que si une seule personne dit non, alors on ne peut pas le faire. Donc il faut nécessairement un consensus où tout le monde, même si, et là ce n'est pas question de majorité, c'est pour cela que je récuse même le principe de référendum. C'est pas question de 1000 personnes ont raison, une personne a tort, alors ça passe. Non, même si un seul Congolais dit non, il peut faire appel à l'article 64, et s'il a le moyen de vous bouter vous tous, il va le faire. Ça veut dire que pour le faire, il faut que tout le monde soit d'accord qu'on va le faire. Et comme, et par tout le monde j'entends, et la population, et la classe politique. Ça veut dire que vous devez poser la question à Matata Mponyo aussi, ce qu'il en pense. Ça veut dire que le processus ne peut être qu'inclusif.
Là,
ça veut dire
qu'on ne peut pas... On ne peut pas... Jésus-Christ au Congo qui a proposé qu'il y ait un consensus national...
On en a encore parlé ici dimanche. Consensus, pas même majorité. On s'est réunis, on a voté qui sont pour, qui sont contre. Consensus. Et si on dit non, si une seule personne dit non, c'est fini. Même si vous commencez à réprimer, vous faites un coup d'État. Et attention, ce coup d'État n'est pas constitutionnel, c'est un oxymore. C'est pas constitutionnel. Parce que vous ne pouvez pas faire un coup d'État pour une constitution qui refuse le coup d'État. Ça veut dire que vous êtes en train tout simplement de... C'est un coup d'État, bref. Et nous devons sortir de l'illusion que l'on est face à des démocrates, à des gens bien intentionnés, qui voudraient ceci et cela. Non, on est face à des dictateurs. Il faut que le Congolais mette à l'esprit qu'ils sont face à une dictature, à un dictateur. Et les pires des dictateurs. Si nous devrions changer cette constitution un jour, ou changer deux constitutions comme nous le pensons, nous devrions le faire pour que des gens comme ça n'aient plus jamais le pouvoir au Congo.
Merci beaucoup.
Mais pas que eux le maintiennent et le prennent en otage.
Aidé Bakoulou, quel est l'impact de la répression de cette marche et de toutes les conséquences y afférentes, les blessés, les casses, sur la suite de la démarche initiée par... le pouvoir en place, une démarche visant le changement de la constitution. Est-ce que les conséquences autour de la manifestation peuvent avoir un impact sur la position du pouvoir en place aujourd'hui?
Bon, d'abord il faut noter que nous ne sommes qu'au début. Nous ne sommes qu'au début. Entre maintenant et ce qui va arriver, il y aura beaucoup de choses. Le pouvoir est totalement engagé aujourd'hui dans cette histoire de changement de constitution. Il est vraiment engagé. Il ne veut pas reculer. Et la population est aussi engagée dans sa constitution. Donc, nous allons participer à beaucoup d'événements, malheureux évidemment, qui vont emporter beaucoup de gens seront assassinés dans cette histoire. Beaucoup de gens seront arrêtés, emprisonnés dans cette histoire. Donc, voici.
Est-ce que vous sentez réellement la participation de la population dans l'idée de l'opposition à cette démarche?
Mais bien sûr, il faut... C'est ce qu'il a dit. Et nous avons un problème.
Je crois que c'est pour cela que les dirigeants sont en train de dire que cette constitution n'est pas adaptée. Cette constitution a été faite de manière extrêmement intelligente. Vraiment, je l'avais dit encore ici. Je l'avais dit encore ici. Que, en fait, la plus grande force de cette constitution, c'est d'avoir été la constitution de plusieurs personnes qui ne s'entendent pas.
Comme on le dit souvent, la constitution des belligérants.
Oui. Ouais. Plusieurs personnes qui ne s'entendent pas. Alors, ils ont mis
beaucoup
une constitution
pour ne pas permettre à un camp de régner seul. Comme
oui, maintenant, il y a des gens qui nous prouvent que cette constitution n'est pas adaptée à leur mentalité, à eux. Effectivement, pour appliquer cette constitution, il faut avoir un certain niveau. C'est pour cela que je lis deux phrases de l'article 74, et puis je vais continuer. La première, c'est le serment du président de la République. Moi, Titi, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. C'est le premier trait. Au quatrième trait, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine. Maintenant, je reviens à ce que le président de la République a dit récemment dans une des conférences de presse qu'il a faite. Si le peuple congolais m'accorde le troisième mandat...
C'est sa dernière conférence de presse.
Ouais. Si le peuple congolais m'accorde le troisième mandat, je vais prendre. Il s'est engagé à respecter cette constitution qui dit à son article 220, qui dit ce qui suit, 220, bon, je le connais par cœur, mais je voudrais le lire pour que il n'y ait aucun... Qui dit? La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée du mandat. Le nombre et la durée des mandats du président de la République, ainsi de suite, ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Lui-même sait que dans cette constitution, il y a un article qui lui défend de penser même à un troisième mandat. En tout cas, ça lui défend d'y penser, ne fût-ce que d'y penser. Il pensait que c'est déjà une violation de cette constitution, parce qu'il s'est engagé à observer et à la défendre.
Mais lui suppose que le peuple est au-dessus de tout, quoi.
C'est le peuple nous a donné la constitution. Jusqu'aujourd'hui, personne d'autre ne peut nous dire quel autre peuple nous a donné une autre constitution. Et ce peuple-là, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous ici. C'est nous qui lui avons donné ça. Et lui-même, dans son intention, il rêve que le même peuple qui lui a dit, mon cher, nous te donnons un mandat, c'est 5 ans, renouvelable une seule fois. Et lui pense, dans sa conférence de presse, que non, si le peuple m'accorde, ça c'est déjà une violation de ce... C'est-à-dire qu'il ne tient pas compte de cet article qui verrouille ça. Ça, c'est déjà une violation de la Constitution. Et cette Constitution elle-même, d'ailleurs, prévoit ce qu'il faut pour quelqu'un qui la viole. Cette Constitution-là. Je l'ai dit encore il y a 2 semaines ici. Sincèrement, bravo à nos parlementaires de la transition et tous ces gens-là qui avaient contribué à faire cette Constitution. C'est aujourd'hui que je vois tout ça. Aujourd'hui, ça nous révèle à quoi ils avaient pensé. Même dans leur préambule, ils le disent, et aujourd'hui nous sommes dans le cas. Mais ce qui est plus grave encore, il l'a dit, M. Bissimois, les autres l'ont dit, notre démocratie n'est pas parce qu'il y a Kabila, parce qu'il y a Tshisekedi. Notre démocratie, c'est notre démocratie. C'est-à-dire quoi? Tshisekedi ne peut pas prétendre aujourd'hui qu'il n'y a pas moyen, la constitution est verrouillée. Il n'y a pas moyen d'avoir un troisième mandat. Il ne peut pas le dire hier, parce que la constitution le dit, et aujourd'hui venir nous dire que non, c'est possible. C'est de la même manière que j'ai vraiment un problème. Notre grand frère Moupira, il est enseignant d'université. Ça me fait très mal de constater l'incohérence qu'il y a dans les têtes de ceux que nous appelons les professeurs. Un professeur, c'est quelqu'un qui a la connaissance. Un professeur enseigne. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des professeurs. Et qu'un professeur dise ceci aujourd'hui, et que demain, ils disent juste le contraire, moi, étudiant, qu'est-ce que je vais retenir? Moi, qu'est-ce que je vais retenir? Qu'est-ce que je peux... Parce que, les professeurs sont des doctrinaires.
Justement.
Ce sont des doctrinaires. Quelle est la doctrine? Je prends le cas de Ngondan Nkoy. Ngondan Nkoy, qui a initié la loi référendaire. Ngondan Nkoy, il a enseigné, il enseigne à l'université à Kinshasa.
Oui.
Et dans ses enseignements, il a repris cette histoire ici, dans un de ses enseignements de droit public à l'université de Kinshasa, en première année de graduat, je crois. Il dit ceci. La loi sur le référendum. Un référendum a l'objet et les procédures. Il dit, dans le cas de la République démocratique du Congo, on ne peut faire le référendum que pour trois matières. Et il les cite. Il dit aucune autre matière. Il cite les trois. Que le même professeur vienne aujourd'hui nous faire une loi qui élargit son champ, qui va en dehors de la Constitution alors qu'elle s'inspire de la Constitution, vous vous demandez, on est où? Est-ce qu'à un certain moment... On ne peut pas commencer à se demander est-ce qu'il faut mettre les professeurs dans la politique, parce que ce sont des professeurs qui nous enseignent, c'est eux qui nous donnent tout ce que nous disons ici, c'est grâce à eux. Maintenant qu'aujourd'hui ils disent ceci et que demain ils disent autre chose, tout simplement parce qu'il est allé en politique, ça c'est très grave. Je crois que il faut commencer. Je prends Mbata. Est-ce que Mbata aujourd'hui on peut l'appeler professeur du droit?
Oui,
des droits. Est-ce qu'on peut l'appeler professeur de droit constitutionnel? Sous Kabila, il disait ceci. Sous Kabila, il avait dit que bon, celui qui pense à changer cette constitution, c'est comme violer sa propre mère. Des histoires comme ça. Bon, j'espère qu'il n'a plus de mère, parce qu'aujourd'hui il il l'a dit, hein, il le disait, ne fût-ce que penser à changer cette constitution, il a dit c'est une infraction imprescriptible. Et il avait donné même un exemple de quelqu'un de la Shoah qui avait été appréhendé où il se cachait plus de 50 ans après, dans l'Amérique latine. Il a pris ça. Donc c'est. Mais qu'est-ce qui se passe qu'aujourd'hui ça ne devient plus? Donc, sous Kabila, c'était cela. Sous Tshisekedi, c'est ceci. Et demain, sous quelqu'un d'autre.
Est-ce que vous pensez que ces actions de l'opposition peuvent être dissuasives et empêcher le pouvoir à aller jusqu'au bout de sa démarche?
Mais bien sûr. Je sais que je vous ai
parce
dit au début.
Vous l'avez dit au début.
C'est que j'ai dit au début. Le pouvoir est vraiment très, très engagé. Et le pouvoir est engagé pourquoi? Tous ceux qui sont là. Pourquoi ils sont si engagés que ça? Pour plusieurs raisons. Mais la première raison, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte des erreurs qu'on a commises. L'erreur, je l'ai dit encore une fois, l'erreur d'avoir traqué Kabila comme ancien chef de l'État. L'erreur de l'avoir traqué à Kinshasa, de l'avoir mis mal à l'aise au point qu'il fallait qu'il parte. C'est une grosse erreur. Et le président qui vient peut faire la même chose du président actuel. Alors là, on a peur. La deuxième chose, tout ce qui sont autour de Mzé, du président actuel, le président Tshisekedi, ce sont les mêmes qui étaient
avec Kabila.
Tous ces gens ont peur. Si ce pouvoir change aujourd'hui, qu'est-ce qui va nous arriver cette fois?
Ils ont peur de leur lendemain.
Qu'est-ce qui va nous arriver cette fois? Donc, ils ont tous peur. C'est la peur qui les pousse à dire Ebeba, Ebeba. eye koya ya hatuna choix tuendelee mwai mwai sema tu kwa mo ndio tuziproteze.
Merci beaucoup.
Parce que je m'excuse expédie, je vais
vous aurez le temps encore à deuxième prise de parole pour affûter votre argumentaire. Vous avez tari des loges à l'endroit du Parlement de transition, à l'endroit du Parlement qui nous a élaboré cette constitution, et nous nous retrouvons dans ce studio avec Mupira Mambo qui était député national en 2003 et jusqu'en 2006. Ignace Mupira, l'argument vendu par l'hôtel de ville de Kinshasa était celui d'interdire l'organisation du sit-in au Parlement, ou disons au Palais du Peuple, estimant que c'est un lieu inviolable. Ils ont proposé que ça s'organise plutôt à un autre endroit, dans la commune de Kasavubu. Est-ce que vous en savez un peu plus sur le caractère sacré du siège de l'Assemblée nationale, disons du Parlement congolais?
Oui, j'en sais peut-être trop. Et si on doit faire un débat sur toutes ces matières-là, le temps de 28 minutes ou 30 minutes, ça ne peut pas suffire. Nous pouvons, même en organisant des conférences ou des cycles de conférences, pour que chaque conférencier se saisisse d'un aspect de la Constitution et donc de la vie nationale, le temps d'une semaine, peut-être que ça pourrait suffire, mais encore que tout ce qui est dit, tout ce qui est... Parce que la Constitution est... On dit souvent, je ne suis pas juriste, hein, mais les juristes eux-mêmes disent que l'effet précède la loi.
Justement.
L'effet précède la loi. Et donc, ce que nous avons verrouillé dans cette Constitution, ce que nous avons coulé comme option dans cette Constitution, a été puisé dans le vécu quotidien du peuple congolais. Et là où nous avons interdit, c'est parce que nous avons pensé que, en laissant poursuivre certaines pratiques, le pays allait à sa ruine. Et quand je lis vous m'avez posé une question précise, hein, sur l'organisation de
du sit-in,
etc.
Au Palais du Peuple.
Ok, d'accord. Aussi bien dans l'esprit de la Constitution et dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et du Sénat, il est bien inscrit que le Palais du Peuple est inviolable. C'est un espace inviolable. Vous ne pouvez y organiser des manifestations qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Parlement. Ouais. Et c'est pour ça que c'est sécurisé. Il y a la police, il y a tous les services qui veillent à la fois à la salubrité des esprits, à la salubrité des esprits, mais aussi à la salubrité de l'environnement et même à la sécurité du site. Et lorsque les organisateurs du sit-in ont adressé une lettre au gouverneur de la province de Kinshasa, ils ont expliqué, ils ont précisé la raison pour laquelle ils voulaient se rendre sur l'esplanade du Palais du Peuple pour déposer leur mémorandum, exprimer leur protestation contre les velléités du changement de la Constitution et contre même les velléités du vote de cette loi référendaire qui introduit, disons selon le professeur Ngondankoy et les députés qui ont finalement voté cette loi-là, des notions qui n'ont rien à voir avec le référendum, des notions telles que l'Assemblée nationale qui se transforme en chambre constituante, encore que ce sont des intellectuels, je leur fais confiance. Une chambre constituante ne peut être constituée que lorsque vous êtes entré dans une transition. C'est-à-dire vous suspendez la Constitution, vous entrez dans une espèce de temps mort, de parenthèse, qui va déboucher sur une nouvelle Constitution et une nouvelle République.
Absolument.
Et donc, l'Assemblée actuelle ne peut donc pas se muer en constituante.
Elle-même qui est constituée.
Oui, c'est une assemblée qui fonctionne tout à fait normalement. Donc, les organisations ont tout à fait le droit d'organiser leur sit-in, d'autant plus que la même constitution que nous avons autorise à tout celui qui veut organiser une manifestation d'informer. C'est que Amos disait, nous sommes dans un régime d'information et pas de sollicitation des autorisations. Lorsque le législateur de 2006 a pensé à ça, c'est tout simplement d'expérience, parce qu'on a vu comment ça s'est passé pendant 32 ans avec Mobutu, qui ne permettait rien, c'était le parti unique, c'était la pensée unique, et nous sommes tous issus de... Nous avons fait partie du MP. Moi, j'étais un dirigeant sectionnel de la GMPR étudiantine, et donc j'en sais. Oui, j'avais des vaillants commissaires à l'information, qui est ici à Mung, il s'appelle, c'est le chef de travaux, il était membre de notre comité de la GMPR, il était le commissaire de l'information. Il n'a pas perdu sa verve oratoire ni sa plume alerte. Oui. Bon, j'avais aussi un gentil brigadier. Bon, la liste est longue, je ne sais pas si je peux le citer.
Non, ça,
c'est... Je vais le citer avec son autorisation. C'est un gentil garçon, c'est un ami.
Ok.
C'est Katintima. Et donc, il sera content. Et dit, dirigeant Nankumbuka.
Merci.
Bon, voilà. Donc, c'est parce qu'il fallait mettre fin à toutes ces tentatives de blocage de l'expression démocratique du peuple qu'on a dit, il faut simplement informer. Parce que si vous demandez l'autorisation, le régime risque de ne pas vous l'accorder. Et nous craignons justement que tout ce qu'on voit aujourd'hui ne puisse arriver. Idé Bakoulou a évoqué feu Papa Kalegamire. Il avait dit autre chose, hein, que l'ivresse de lait est plus mauvaise que l'ivresse d'alcool. Je pense que les personnes qui sont en train de réfléchir aujourd'hui... avec tout le respect que je leur dois, évidemment quand on dit je, avec tout le respect que je vous dois, c'est que en principe on n'en a plus. Quand on dit que je salue en passant, c'est que bon, c'est une façon de se dédouaner. Quand on dit que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait vous n'avez plus beaucoup d'attachement pour lui. Donc des personnes que je respecte beaucoup. Idé Bakoulou a dit une chose qui m'a beaucoup touché. Cette constitution n'a pas été faite pour une catégorie de personnes. Et donc, pour revenir à votre préoccupation, l'opposition avait tout à fait le droit d'organiser sa manifestation et même de faire le sit-in au Palais du Peuple avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. S'agissant du gouverneur, c'est informé. Mais parce que le site est inviolable, il fallait obtenir l'autorisation de se pavaner, d'aller se faire une petite promenade sur l'esplanade, déposer le mémo, le lire devant les caméras, rester sous le soleil pendant 2, 3, 4 heures, etc. Et ça pouvait se passer tranquillement. Mais la crainte du pouvoir aujourd'hui, c'est que les méthodes que les acteurs politiques d'aujourd'hui ont utilisées, dont ils ont usé et même abusé, les sit-ins, les marches, l'interpellation de la communauté internationale à temps et à contre-temps, ils ont dit, aïe, si nous autorisons cette marche, le peuple sera tenté de le suivre, parce que le peuple risque de comprendre que nous sommes en train de... Le pouvoir est en train de nous échapper. Alors, il faut arrêter à tout prix pour que ça ne fasse pas foule.
Parce que le passé, on a vu les Wewa entrer à l'Assemblée nationale et tabasser les députés. Il fallait mettre en mal
En mai 2005, lorsque nous adoptions la dernière mouture du projet de la Constitution, l'UDPS qui protestait est venu à l'Assemblée nationale. L'UDPS est entré dans le Parlement, dans l'enceinte du Parlement. Il y avait séance. On nous a fait fuir par des bâtons, des gourdins, des pierres, etc. Nous sommes sortis par des petites portes que nous avons découvertes ce jour-là seulement. Nous, on pensait que l'entrée principale était l'unique entrée, l'unique sortie. On nous a quand même fait passer par des couloirs, etc. Nous sommes sortis par l'autre flanc, qui donne sur, la RTNC, du côté de l'RTNC, Lingwala, c'est lui des Perses, ils sont mis avec des pierres, etc. Parce que là aussi, le règlement pendant la transition disait que le palais du peuple était inviolable. Je ne sais pas si inviolable hier, inviolable aujourd'hui, ce sont les mots qui ont perdu au fil des ans. Leur sens.
Merci beaucoup.
Et donc, j'atterris sur cette question, cet aspect-là, par. J'avais dit l'autre jour que j'ai lu un article. Quelqu'un m'a attribué ce que j'avais dit l'autre fois, quelqu'un avec qui j'ai changé, qui m'a traité de kabyliste d'ailleurs. Il dit non, vous êtes du FCC. Je n'ai jamais été du FCC, parce que quand le FCC est né, moi je n'étais plus dans aucune affaire politique. Mais j'étais de l'AMP.
La majorité
à l'époque, au pouvoir. À l'époque, j'avais lu un article qui disait, s'agissant de la ville morte, et je l'avais dit ici, Mobutu l'a vécu, Kabila l'a subi, et Tshisekedi vient d'avoir sa première dose. Et j'avais dit que il n'y a pas un sans deux, et peut-être qu'il n'y a pas deux sans trois.
Oui.
Et après la dose, à force de lui administrer la dose, il risque d'avoir l'overdose. C'est ça que moi j'avais dit ici. Et donc, l'ivresse. Nous sommes au niveau du début de l'overdose. Et la communauté internationale, qu'ils craignent toujours, parce que la plupart de ceux qui nous dirigent sont venus de l'Europe, et ils savent ce qu'est Amnesty International, ils savent ce qu'est Human Rights, ils savent ce qu'est l'Union Européenne, ils savent ce qu'est l'ONU, même s'ils disent non, qu'est-ce que l'ONU va faire, nous avons notre Trump, etc. Non, ils savent ce qu'est l'ONU, et ces organisations-là ont réagi. Human Rights Watch a réagi. Vous n'avez pas cité la réaction du ministre belge des Affaires étrangères,
Maxime Prévost,
qui a réagi. Il a condamné. Et c'est ce qui pousse aujourd'hui le gouvernement lui-même à condamner.
Le président a condamné également.
Mukwege. C'est par cette crainte-là que même le ministre de la Justice a appelé
les partis
politiques pour dire, bon, expliquez-nous un peu comment c'est arrivé, etc. Bon, pour essayer de leur dire, non, vous voyez, nous sommes quand même gentils. Dites aux autres qu'il n'y a eu aucun mort, ainsi de suite. Mais c'est tellement... grave, on me dit, c'est le retour de la manivelle. La presse a beaucoup écrit et on a dit que l'UDPS, le parti au pouvoir aujourd'hui, est en train de tomber dans son propre piège. Mais c'est un problème de niveau, c'est un problème de niveau de compréhension du fait politique et du phénomène politique. Les pauvres professeurs, certains professeurs, qui bradent leur science pour un peu d'argent. Ils font ça pour l'argent. Il y en a qui savent d'ailleurs que peut-être que ça ne réussira même pas, mais nous, on aura déjà pris quelque chose. Les gens, surtout les Quinois, ils aiment les réunions, les grandes réunions qu'on va tenir au Bas-Congo, dans les sites touristiques sur la route Matadi. Ils vont dormir dans des hôtels, etc., etc. Ils vont quand même trouver du carburant. Mais si j'avais un conseil à donner à nos illustres scientifiques qui réfléchissent sur cette question-là, c'est d'arrêter, parce que ça ne sert à rien. J'ai l'impression que cette constitution a tellement été verrouillée qu'il est difficile pour le terrain du pouvoir d'en verrouiller. Même pas, ils n'ont même pas réussi à verrouiller l'article premier qui dit que la République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960. Je ne sais pas s'ils connaissent ces frontières-là et c'est combien de mètres et de millimètres, parce que le gouvernement de Kinshasa a déjà perdu le contrôle sur le nord et le sud Kivu, donc ce n'est plus dans ces frontières de 1960. Un état de droit. J'ai appris que le mot état de droit a été inventé par le régime actuel. Non, il est dans l'article premier de la Constitution. Il s'agit seulement de l'appliquer. Il y a beaucoup de dispositions constitutionnelles qu'on a ou complètement oubliées, qu'on n'applique pas.
S'il vous plaît, parlons maintenant de votre expérience de parlementaire. Parce que, en fait, Amos est revenu sur cet aspect. Ça se joue à l'Assemblée ou, disons, à la Chambre des représentants, au Sénat. Ce sont nos élus qui sont en train de légiférer, qui sont en train d'élaborer cette loi. Ils y apportent des inputs et ils y sortent des choses à leur guise. Est-ce qu'un parlementaire, à titre cavalier, dans cette chambre, considérant la détermination à laquelle Idé Bakoulou a fait allusion, la détermination du pouvoir en place, un député pris à part entière ou une tranche des députés, par exemple ceux du Sud Kivu. Amos est revenu sur l'ensemble des députés, mais dans ce studio, nous sommes revenus sur la responsabilité des élus du Sud Kivu. Et par exemple ceux du Nord Kivu. Est-ce qu'un député pris à part entière a une marge de manœuvre pour s'opposer à une telle initiative là-bas, sur place à l'Assemblée nationale, considérant aussi les avantages que les députés bénéficient, nous n'y revenons pas, la somme faramineuse qui bénéficie à la fin du mois, le contexte dans lequel ils vivent à Kinshasa, est-ce que c'est facile pour un parlementaire de s'opposer à une telle démarche?
Oui, mais le parlementaire, il est député. En dehors du fait que les députés sont élus sur une liste de partis politiques, mais
Enfin, nous reviendrons également sur l'aspect parti politique dans la deuxième partie.
Oui, tout à fait. Les pauvres, ils sont, on ne peut pas s'asseoir entre deux chaises. Hein. Les pauvres députés du Nord et du Sud, qui vous, est-ce qu'ils peuvent prendre la parole et dire ce qu'ils pensent, élever la voix, etc. L'expérience de Modeste Batulukwebo, qui a osé dire qu'il hésitait, lui, il était au début de son l'expression de son doute. Mais
vous exprimez juste une pensée.
Non, il venait y penser.
Il a été matraqué.
Oui, non, on l'a fait partir du poste de deuxième vice-président. On l'a remplacé par notre frère Norbert Katintima. Et Vital Kamer, je crois qu'il est passé par là aussi. Oui. On l'a soupçonné de ne pas tout à fait adhérer à l'idée. On a dit avec celui-ci, on n'aboutira pas. On l'a fait partir. Mais les députés disposent de plus de flèches dans leur carquois. À titre individuel, il peut émettre et il doit émettre un point de vue dans l'exercice de ses fonctions.
Parce que nous apprenons qu'un élu de Boutembo n'a pas voté pour la loi référendaire.
Il est encouragé.
Oui, mais il faut avoir le courage de se. Il faut avoir le courage.
Je ne connais pas son nom, mais il y a eu deux oppositions à cette loi référendaire. Deux députés ont voté contre, y compris un élu du Nord Kivu, précisément de la circonscription électorale de Boutembo.
Et celle du Sud Kivu?
Les députés disposent de beaucoup de leviers. Hein. Un député peut, séance tenante, exprimer son point de vue par une mention incidentielle. Il peut exprimer son point de vue. Il peut s'opposer à titre individuel comme député. Un député, c'est une entité. Il représente une circonscription. Il représente une portion du peuple et ceux qui l'ont élu savent pourquoi. C'est certainement sur base de l'appréciation qu'ils ont de sa façon de prendre la parole, sa façon de prendre position, et pas nécessairement sa façon de faire le mouton de Panurge, pas nécessairement la façon d'aller là où vont les autres. Mais si vous dites bon, kule kwenye batu wanenda ba mingi njo kunjia kule, comme on dit dans ma langue, kweta vinge utokonzela, comme on dit dans ma langue. Non, c'est-à-dire vous faites le mouton de Panurge. Non, le député dispose d'une personnalité, il dispose des idées, il sait saisir sur base d'un programme du député qui s'inscrit dans le programme de son parti politique. Mais on voit d'abord, quand nous choisissons les gens ici, quel est le parti politique de notre député,
de quelle circonscription? Bukavu.
Bukavu, qui, bon, on dit qu'il construit en face de Monkaouzi.
Patrick Bakaoban.
Oui, quel est le parti de Patrick Bakaoban? Moi, je ne connais pas le parti de Bakaoban, mais je sais que Bakaoban existe. Mm. Et ceux qui ont élu pour lui, ceux qui l'ont choisi, savent pourquoi ils ont voté pour lui. Certainement, les jeunes ont entendu de bonnes idées, etc. Mais est-ce que lui-même a déjà lu cette constitution ici? Certainement qu'il a voté parce qu'il est de l'Union Sacrée. Certainement qu'il a voté pour le référendum. Est-ce que lui-même a pris le temps de... Je n'ai rien contre lui, hein. Certainement qu'il ne me connaît même pas. Il a entendu mon nom, mais on ne s'est jamais rencontré. Mais je m'interroge simplement si la plupart de nos députés ont élu. Mais ils sont en difficulté parce qu'aujourd'hui, l'intolérance a atteint a dépassé ses limites. L'intolérance, non seulement au niveau des idées, mais même au niveau physique, c'est-à-dire on peut mettre fin à votre vie. Alors, nos députés sont en difficulté.
Est-ce que cette intolérance justifie également la posture de certains acteurs politiques, patrons des partis politiques au sud Kivu, qui restent muets face à cette actualité?
Oui, mais je l'ai déjà dit, je ne me pas être à leur place, nous parlons ici, est-ce qu'à Kinshasa on peut encore faire un débat pareil? Et donc, bon, vraiment. Mais il y a aussi la tentation, l'appât, le gain, hein, l'argent, les avantages, etc. Si je parle, on va m'expulser, et donc je risque de perdre des avantages. Il y en a qui ont acquis des avantages vers la fin du régime Kabila. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais qui craignent de les perdre. La plupart de ceux qui étaient avec Kabila et qui sont allés, la plupart des députés de Kinshasa, hein, des acteurs politiques de Kinshasa qui étaient avec l'ancien président Kabila et qui ont traversé, qui ont fait la transhumance, qui sont allés rejoindre l'Union Sacrée, c'est pas pour l'idéologie. C'est simplement pour protéger les intérêts, pour avoir le poste. Lambert Mende est quand même président du Conseil d'administration de quelque chose. Même Alain Atoum est président du Conseil d'administration de quelque chose. Il ne va pas manquer du carburant pour vos bonnes idées. Il préfère brader momentanément son indépendance et même sa stature scientifique pour avoir de l'argent. Et ceux qui manipulent et l'opinion et les acteurs politiques savent qu'on peut facilement acheter aujourd'hui un acteur politique congolais et pour une belle Jeep, il peut se dédire, il peut se contredire. Je vais atterrir par ceci. Ide Bakulu a dit, il a voulu parler de la différence entre les députés de la transition et aujourd'hui. Nous, après Sand City, je lis toujours l'accord global et inclusif. Même si certains disent que ça a été rédigé à l'étranger par des étrangers, ce qui est complètement faux, ce qui n'est pas vrai. Le principe à l'époque, c'était on levait les options par consensus, à défaut par vote. Aujourd'hui, avec le Parlement monocouleur, comment vous pouvez avoir un Parlement de 470 sur 500 députés appartenant à un camp politique, même en France, même aux États-Unis. Mais aux États-Unis, il y a quand même des voix qui s'élèvent, des voix discordantes. Et c'est ça l'avantage de cette constitution. Les gens ne se faisaient pas des cadeaux. Et on cherchait à verrouiller. Je ne vois pas comment nous, société civile, on pouvait faire des cadeaux au RCD, par exemple. Enfin, pas nous qui venions de Bukavu, qui avions combattu la guerre pendant des années et des années. Je ne vois pas comment les gens du gouvernement PPRD pouvaient faire des cadeaux au MLC de Jean-Pierre Bemba, etc. Et même au sein de l'opposition politique, à la commission PAJ où j'ai siégé, il y avait quand même comme président Mwando Simba de l'UNADEF, il y avait Kingo Akumanza de l'UNAFEC, il y avait le Lutundula, beaucoup de Kinois aussi, qui nous disaient, vous voulez prendre 60% des ressources, parce que nous, on voulait prendre 60%. C'est-à-dire qu'il a retenu. Il disait, et bon, comme c'est Tokoli Anini. Vous voyez? Et donc, même le combat entre les unitaristes et les fédéralistes, nous avons réussi à le régler en disant, et puis que le République du Congo est un État uni et indivisible. On a seulement évité le concept unitariste pour que les unitaristes ne puissent pas
se prévaloir, disons,
la poitrine et indivisible pour que les fédéralistes ne confondent pas fédéralisme et sécession. Et on pensait aux zones qui sortaient de la rébellion et à ceux qui, au Katangé, au sud Kasaïen, qui avaient expérimenté la sécession. Merci. Donc, notre expérience, je commence à admirer notre expérience, mais les députés d'aujourd'hui disposent de la même indépendance. S'ils veulent vivre de leur indépendance d'esprit, ils peuvent seuls ou en groupe refuser de voter, refuser de lever des options qui sont contre les options fondamentales du peuple, la démocratie et le respect des droits de l'homme.
Merci beaucoup à vous. Amani Mandeleo, comment justifier cette montée en puissance de l'opposition congolaise qu'on a traitée d'opposition Yanzala, Yapété, et qu'on voyait un peu dispersée? On sentait que les camps se constituaient au sein de l'opposition, souvent la RDC, la coalition 64, d'autres opposants en exil à l'étranger, mais subitement, une action initiée, on sent que ça fait effet de bombe.
Oui, en fait, exactement, c'est comme ça que ça se passe souvent lorsque vous avez eu les temps de durée et que le peuple constate peut-être qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. À un certain moment, le peuple se tourne vers l'opposition. Et donc, comme nous sommes à la fin du mandat, ce n'est pas exclu que le peuple puisse être plus opposant que du pouvoir. Et ça, on a connu dans ce pays depuis très longtemps.
Et comment vous envisagez la suite des événements?
Ouais. Déjà, s'il faut revenir sur la manifestation, il faut commencer par déplorer les morts, ce qui s'est passé, en tout cas ce que nous avons vu dans les images, dans les vidéos, reste à déplorer. Parce que la police, qui a d'abord pour mission principale de sécuriser, de protéger la population, ne peut pas être à l'origine des morts. Certes que les opposants en organisant cette marche, et aussi savaient que ça va arriver, parce qu'il venait de le dire, le doyen, le député honoraire, il est revenu sur que le fait que le siège du Parlement et donc de l'Assemblée nationale et du Sénat est inviolable. Déjà l'article 6 du règlement de l'Assemblée nationale revient sur ça, que vous ne pouvez pas y accéder sans autorisation du bureau. En plus, là, il s'agissait quand même d'une manifestation de partis politiques de l'opposition. Et nous connaissons tous comment ça se passe chez nous. Que ce soit à Bukavu, que ce soit à Kinshasa, chaque fois qu'il y a de telles manifestations, il y a toujours des gens qu'on ne sait pas contrôler.
Considérant par exemple qu'il y avait plénière le vendredi, il y avait plénière, je me rappelle plus de la matière qui était sous examen, peut-être que certains incontrôlés auraient la possibilité de pénétrer et aller séquestrer peut-être les élus à l'intérieur.
Exactement. Et même la constitution congolaise, pratiquement son article 26, qui parle du régime d'information et non d'autorisation, a prévu une loi qui devrait organiser la manifestation publique. Et malheureusement, cette loi n'est pas en vigueur chez nous. Et donc, peut-être cette loi devait tenir compte de cet aspect de l'inviolabilité des assemblées parlementaires et de certains endroits. Parce que c'est pas au nom par exemple de la liberté de manifestation, vous ne pouvez pas par exemple aller manifester chez les gouverneurs en dérangeant les travaux normaux, parce que vous venez les jours où les services sont en mouvement à la présidence et consorts. Et donc c'est aux législateurs de nous trancher ce problème. Alors ici, j'ai suivi beaucoup sur les changements, les débats, la révision constitutionnelle.
Comment vous appréciez le contenu de la démarche de l'opposition?
Oui, déjà, l'opposition, et comme je l'ai dit, l'opposition est composée de partis politiques. Et le parti politique, l'objectif, c'est d'accéder au pouvoir. Et l'opposition, qui voit une loi référendaire qui fait allusion également à un possible changement de constitution, ne peut que faire tout pour voir si la démarche va être limitée. Mais moi, la question que je me pose, je me demande, est-ce que dans cette constitution, ou à l'état actuel de notre droit constitutionnel, est-ce qu'il est possible de basculer vers un nouvel ordre constitutionnel? Mais avant d'y arriver, je constate que le changement de notre constitution n'a pas commencé aujourd'hui. Le changement de la constitution du 18 février 2006, tel que révisé, a commencé en 2011.
Il y a eu une révision en 2011.
Je ne dis pas de la révision, je parle du changement. Je pèse bien mes mots. Je parle du changement. tout simplement parce que les aînés venaient de lire l'article 220 de la Constitution qui parle de matière verrouillée, qui limite le pouvoir constitué. Et déjà, le dernier alinéa de cette disposition a dit clairement que les prérogatives reconnues aux provinces ne peuvent pas être touchées. Et donc, si vous réduisez les prérogatives reconnues aux provinces, ce que vous avez changé, vous n'avez pas révisé. Et la révision intervenue en 2011 a effectivement touché les prérogatives reconnues aux provinces dans la mesure où, désormais, il est autorisé au président de la République de dissoudre l'Assemblée provinciale, les assemblées provinciales, et même les gouvernements provinciaux, ce qui n'était pas dans la Constitution telle qu'adoptée en 2006.
Ça, c'est un changement.
Exactement, on a touché le matière verrouillée.
Non.
De la même manière que, parce qu'aujourd'hui, si on touche le mandat du président de la République, là, on n'est plus dans une révision.
On n'est plus dans la Constitution de 2006 qui verrouillait certaines positions.
Oui, exactement.
Quelle prérogative
a été diminuée ? Je crois que quand je parlais, quand vous parlez, je me suis dit, il faut laisser le temps de... Vous allez peut-être intervenir après.
Donnez vos moyens.
Oui, parce que tu peux vérifier, dans la Constitution de 2006, il n'était pas permis au président de la République de dissoudre les assemblées provinciales. Déjà, quand on dit que, quand les constituants originaires disent que les prérogatives reconnues aux provinces ne peuvent pas être réduites, ça signifie qu'il y a eu cette... Et puis, ma réflexion tourne, c'est par rapport à quoi? Il est vrai qu'il y a une limite à la révision constitutionnelle. Et donc, les constituants originaires, comme tout le monde l'a dit ici, a prévu de matière pour lesquelles on ne peut pas toucher. Mais il existe également les limites aux limites à la révision constitutionnelle. Et donc, les limites aux verrues constitutionnelles, et c'est par là que je me pose la question, est-ce que dans la Constitution congolaise, 18 février 2006, révisée en 2011, existe-t-il une disposition qui dit qu'on ne peut pas changer de constitution? Est-ce que dans cette même constitution du 18 février 2006, il existe une disposition qui dit que les Congolais vont mourir avec cette constitution? Parce qu'on a vu des grandes démocraties changer de constitution. C'est par exemple le cas de la France. La constitution de 1946 en France s'est vue être changée en 1958, lorsque la France bascule de la 4e vers la 5e République, tout simplement parce que certains estimaient qu'il y avait... il y avait la déstabilisation des institutions. Et donc, il existe en cette matière deux peuples. Il y a le peuple qui, j'estime, le peuple dit dedans et le peuple dit dehors. Le peuple dit dedans et donc le peuple qui est constitué, qui est prévu par exemple dans notre constitution, l'article 218, en matière, lorsqu'il peut initier une révision, ne peut faire que dans les limites du pouvoir constitué. Ça, c'est aussi ce que peuvent faire ses représentants, notamment les députés. Et donc, lorsque vous voulez toucher la Constitution, vous devez la toucher dans ses limites. Mais il existe maintenant un peuple qui n'a rien à faire avec cette Constitution, le peuple dit dehors, que moi j'estime le peuple souverain. Parce que c'est ce peuple qui détient le pouvoir. Et donc pour moi, s'il va de l'intérêt de ce peuple, je ne vois pas en quoi ça dérange.
Si je vous comprends bien, donc le changement de la Constitution, même si la Constitution elle-même ne prévoit pas de mécanisme pour son décès, disons-le d'un terme très simple, mais s'il faut changer de Constitution, ça vaut vraiment la peine de le changer. Mais est-ce que le contexte s'y prête?
C'est ce que je disais. S'il va de l'intérêt du peuple, tout le problème chez nous, c'est que tout le monde veut changer de tête.
Je pose maintenant cette question. Est-ce que le peuple veut ce changement?
Mais là, il faut poser la question au peuple. Le peuple, ce n'est pas une personne, deux personnes, trois personnes.
C'est le référendum.
Oui, c'est tout le monde, c'est le référendum. Et comment on pose la question au peuple, ce référendum? J'ai même déjà parlé de cette loi référendaire. Certes que la proposition telle qu'elle est déposée est allée au-delà de ce qu'elle doit faire, mais ce n'est pas un péché pour un parlementaire de compléter une loi d'ailleurs qui était déjà prévue par la Constitution.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Amani pour cette réflexion. Donc, comme nous l'avions dit tantôt, Ignace, vous aurez le temps de réagir. Donc, nous sommes dans une démocratie où toutes les voix sont les bienvenues et toutes les positions. Joseph Baranka, nous avions suivi à l'international la répression de la manifestation a fait tollé et tout le reste. Comment vous entrevoyez la suite des événements?
Bon, permettez, avant, cette fois, pour la première fois, avant de répondre à la question, je vais revenir sur...
Vous
sur
en avez le droit.
Alors, première chose, en 1958, ce que De Gaulle a fait en France, c'était un coup d'État. C'était un coup d'État. Ce que De Gaulle a fait en France en 1958 ne peut pas ériger en modèle d'un changement de constitution ou de la constitution en violation de l'esprit de la constitution. Allez poser la question aux Français les plus honnêtes, ils vous disent que ce qu'il a fait était un coup d'État. Voilà. Point. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous demandez si la constitution actuelle prévoit, comme il ne prévoit pas le mécanisme de changement. Alors, je vais vous répondre intellectuellement et rationnellement. Je vais répondre de façon rationnelle. Ces juridismes-là, c'est ce qui fait à ce que vous oubliez le contexte politique, vous oubliez le contexte rationnel, et vous oubliez le fait qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être dites explicitement, mais qui sont dites implicitement et dans l'esprit du constituant. Et quand vous questionnez l'esprit du constituant, vous vous rendez compte qu'il a tout fait effectivement pour ne pas parler de changement, parce qu'il voulait protéger. Il a mis en place un mécanisme dans lequel on respecte.
N'a même pas prévu le changement.
Il n'a pas prévu le changement, non pas parce que. C'est parce que ça sort même de la possibilité de le faire.
Voilà.
Et je dis maintenant et réponds, mais est-ce que politiquement la question peut se poser? Ne la posez pas juridiquement, parce que vous allez aller dans la haute trahison de la. Et pourtant vous la posez juridiquement, alors que vous faites la haute trahison en faisant cela. Je vous dis maintenant politiquement, intellectuellement, est-ce que la question peut se poser? Oui, la question peut se poser. Mais à quelles conditions? Je vous renvoie maintenant au contexte et je dis. Dans quelles conditions? 1. Vous devez garantir la paix. C'est indiscutable. Je ne sais même pas comment est-ce qu'il faut réfléchir pour savoir que c'est par là qu'il faut commencer. Donc il y a des préalables. 2. Je viens de vous dire que vous ne pouvez pas le faire sans consensus. Vous devez faire un dialogue vaste. Et puis, parce que vous avez posé la question du comment, ce dialogue doit être inclusif, et ça doit être assorti des garanties. Vos parlementaires et vos politiques, ils nous ont craché sur la figure en nous disant que c'est pour... J'ai même vu quelqu'un dire, on va vous dire les choses clairement, ces changements de la Constitution, c'est pour que Félix reste. Et puis il a posé la question, est-ce que tension, ça va? Je me dis, mais regarde-moi ici. Ne vous inquiétez pas, je ne parle pas de vous, je dis d'un de vous. Dis maintenant, la question de l'intention, ça doit être assorti des garanties. Moi, par exemple, vous savez que dans notre institut, nous portons un projet de révision, des changements de constitution. Mais vous savez pourquoi vous ne pouvez pas me convaincre? C'est parce que je vois comment vous procédez, que en fait c'est l'argent, c'est la désinvolture. Vous jouez comme des enfants avec le feu dans une bibliothèque. Vous êtes inconséquent. Écoutez, j'atterris disant ceci. Ne vous inquiétez pas, j'atterris disant ceci. Le temps file. L'inclusivité doit être garantie. Le dialogue, parce que un rendez-vous de changement de constitution, c'est un rendez-vous politique le plus ultime. Ça doit être un moment d'échange le plus profond avec la population. Et je comprends pourquoi vous ne divulguez pas les lois. Je comprends pourquoi vous n'enseignez pas la constitution. Parce que vous n'avez pas intérêt à ce que l'intelligence de la population...
C'est bien entendu.
Enfin, ça doit se faire de manière inclusive et on décide. Je propose donc, par rapport à toutes ces questions...
Comment vous envisagez la suite des événements?
La suite des événements, c'est que...
il faut que les opposants ne se fassent pas piéger par le pouvoir et ils procèdent mal. Je pense que la première chose qu'ils doivent faire, c'est de se réunir tous d'abord dans une plateforme forte et d'envisager un moyen dans lequel, par lequel ils vont faire remonter que la population s'approprie la lutte intellectuellement, pas militantisme, pas le militantisme simple. Sinon, ils vont se faire piéger par Félix, hein, qui fait le chantage, qui parle de contre la constitution et implique Rwanda et rébellion, c'est pas l'enjeu là. Et en dernier lieu, il faut vraiment que on envisage un dialogue très fort et que les gens, Solzhenitsyn parle du déclin du courage, les aînés viennent d'y revenir. Il faut que le courage revienne. Il faut que les gens aient le courage. Denis Mukwege, la population, les députés, Kamere, qu'ils sortent de son silence parce que l'heure est grave, que les au niveau local, on se dit, nous, je l'ai dit ici, nous ici au Kivu, moi, pour ne pas parler d'autres personnes, je ne veux être l'esclave de personne. Or, je vois où tout ceci peut nous conduire si ça marche mal, merci nous bien. Ici du Kivu. Et que les autres à Kinshasa et ailleurs prennent le courage de s'unir sur la cause nationale.
Merci beaucoup. Il faut une idéologie populaire pour assurer une bonne coordination des événements à venir. Telle est la perspective de Joseph, comment faire pour y parvenir, sachant que l'opposition est réunie en plusieurs blocs. Il y a par exemple des opposants en exil, souvent la RDC qui a donné le temps. Joseph Kabila a même sorti un communiqué la veille de l'organisation de ce sit-in, appelant la population à se réunir en cellule pour barrer la route à cette démarche. Comment faire pour aboutir à cette union, disons-le de façon réaliste, union sacrée de l'opposition et peut-être du peuple pour barrer la route à cette démarche.
Justement, Expedia, avant de répondre à ta question, je voudrais d'abord dire, par rapport à ce que notre frère Amani a dit, en évoquant la question des assemblées et des gouvernements provinciaux, je me demande, est-ce que cet article aussi fait partie des articles verrouillés?
Oui.
Je ne pense
pas.
Tout à fait. Oui. Alors, mais je voudrais dire aussi, c'est pourquoi je voudrais dire, on ne prend pas le mal pour modèle. Ce qu'ils l'ont fait, nous l'avons condamné en 2011. Mm. Nous avons dit que c'était une révision cavalière. Mm. Ça a été dit. C'était une révision cavalière. Et ça, nous avons condamné. Mm. Moi, j'avais condamné cette manière de faire. Dédé, je ne sais pas quand Amani parvient à comparer la RDC à la France, que la France a déjà changé sa constitution de plusieurs fois. Et si vous arrivez en France et en RDC, c'est le jour et la nuit. Je pense qu'on ne doit pas comparer.
En allant dans l'histoire du droit congolais, on va se rappeler qu'il y a eu plusieurs constitutions. Mais bon, il faut rappeler le contexte, que c'est pas le même.
Vous avez évoqué le contexte, et c'est là que tout le monde devrait réfléchir deux fois. Maintenant, par rapport à la situation que je suis en train de vivre aujourd'hui, la grande question qu'on doit se poser, les rôles de nos élus. Expédie. Les rôles de nos élus. D'une manière générale, tous nos élus ont sacrifié leurs électeurs au nom de leurs intérêts égoïstes. Plus particulièrement, les nôtres. Je venais d'apprendre que les députés, certains députés de Goma et de Litouri, ont séché leur participation au plénière.
Pour la question de l'état de siège.
Tout à fait, de la situation sécuritaire chez eux. Mais ils n'ont pas claqué la porte quand ils ont fait passer cette loi suicidaire contre la nation, après avoir eu ce qu'ils ont eu. On doit éviter l'hypocrisie. Je voulais parler plus particulièrement de nos députés du Sud Kivu. La Bible est claire. Malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera trahi. Je pense que nos amis du centre de l'Ouest ont essayé de bien jouer leurs cartes. Ils ont amené notre fils, Aimé Bodji, ils l'ont placé à la tête de l'Assemblée nationale pour qu'il accomplisse ce plan diabolique contre la nation. Et c'est très dangereux.
Merci beaucoup, Amon.
C'est très dangereux. Maintenant, il y a quelqu'un qui a évoqué ici la question de la violation de certaines institutions. Oui. Pourquoi des décisions de deux poids, deux mesures expédiées? On a dit que ceux qui gouvernent, ceux qu'on appelle les unions sacrées, ont eu à organiser beaucoup de manifestations à l'Assemblée nationale, mais ils n'ont pas été réprimandés.
Non, il faut être autorisé.
Pourquoi autoriser pour certains, pas autoriser pour d'autres? Amani, soyons sérieux. On est encore dans quel genre de pays? Soyons sérieux. Ce pays nous appartient à nous tous. Maintenant, par rapport à la question que tu as posée, tout en disant que j'appelle le peuple congolais et puis particulièrement les Sud-Kivusiens à désavouer
de députés nationaux, tous sans exception aucune, en commençant par leur chef de bande. J'ai déjà cité son nom. Je voudrais citer en disant que j'appelle les peuples congolais, comme vous avez posé la question, que chacun doit être conscient de la situation que nous traversons. Qu'est-ce qui mobilise les gens envers l'opposition? C'est la souffrance nous imposée par Félix Tshisekedi et sa bande. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de soins de santé de qualité. Une misère sans précédent. Vous voulez que les gens croisent les bras? Vous voulez que Tunyama se tourne dans Galia? Voilà pourquoi j'ai dit, j'appelle même Amani. Je sens sa position, n'est pas claire ici au studio. Tantôt il dit on peut vous réviser, on peut changer, on peut... Je ne sais pas dans quoi il est réellement. Et la population est de nous suivre. J'ai dit, la population doit être consciente de la souffrance lui opposée par le régime Félix et sa bande. Merci. Plus particulièrement, ceux qui ont été à la base, parce que Batu Benyeba Likoufa Kishasa, Benyeba Naba Ouisha, ni ba député nationaux mais ba voté les lois suicidaires na chef de bande wa na julikana ba limutia pour qu'il accomplisse les missions suicidaires.
Merci beaucoup Amani, votre position, ça sera justement aussi votre conclusion.
Oui, avant de conclure, j'aimerais à ce que Mukubwa Amos le sache, la responsabilité de voter ou d'adopter une loi. Le député ne va pas nous contredire, ne revient pas à la seule volonté d'un membre du bureau. Il n'y a pas question de connaître son rôle. Les décisions au niveau de l'Assemblée nationale sont votées en plénière à la majorité absolue de ce membre. Et donc la seule volonté, d'une seule personne ne suffit pas ou ne peut pas empêcher à ce qu'une loi soit votée. Je chute pour dire que il n'est pas exclu, on ne peut pas interdire aux gens de réfléchir. Moi, je sais que cette constitution, certes, est le meilleur, mais ça reste tout de même une œuvre humaine qui ne peut pas être parfaite. Par exemple, moi, je n'ai jamais été d'accord avec le Sénat et l'Assemblée nationale au même moment, parce que j'estime que les trésors publics payent pour la même mission des institutions qui consistent à légiférer et à contrôler l'exécutif. Je suis d'accord pour, par exemple, les votes de membres de la Cour constitutionnelle, parce que ce sont eux qui, en un certain moment, pourraient nous aider. Mais il est, par exemple, aujourd'hui difficile qu'un procureur général pour la Cour constitutionnelle puisse initier une action pénale contre le chef de l'État, alors qu'il sait que le chef de l'État, à tout moment, peut le faire partir. Je serais, par exemple, content de voir dans cette constitution une Cour constitutionnelle qui n'a rien à faire avec le politique, qui a un mandat électif et qui exerce valablement ses missions. Je ne suis pas d'accord avec les assemblées provinciales, que j'estime plus budgétivores. J'aimerais, par exemple, voir un gouverneur élu au suffrage universel
direct.
Avec la possibilité d'être démis de ses fonctions par le même peuple, même pendant le mandat. Voilà. Non, ça aussi c'est un champ, parce que ce sont la province, ça fait partie des matières verrières. Et donc, moi je crois que ça reste une meilleure constitution, certes, mais qui nécessiterait à un certain moment d'être bouleversé compte tenu de notre situation. Et je précise que la constitution du février 2006 n'a jamais prévu qu'elle ne peut pas être changée. Et aucune disposition dans cette constitution ne nous dit pas qu'on doit mourir avec la même constitution.
Merci beaucoup.
Il va de l'intérêt du peuple et loin des politiques, il n'y a pas de souci.
Merci beaucoup Amani Mandileo. Idée, dans un état de droit, dans une démocratie, c'est toujours prévu d'entendre les voix discordantes, les voix opposées et tout le reste.
Mais bien sûr, mais même dans les voix discordantes, il faut rester logique et cohérent. Je commence par ce que tu as dit, mon ami, par rapport à la matière qu'on a verrouillée, mais qu'on a déverrouillée par la révision de 2011, notamment le fonctionnement des provinces. Je te recommande de lire l'article 69, alinéa 2 de la Constitution. Tu vas voir quel est le mécanisme qui permet au président de la République d'intervenir. Le président de la République assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords. Maintenant, les articles qu'on a révisés,
on a réduit les prérogatives.
Non, on a réduit aucune prérogative.
Oui, non, les gens qui sont
on voudrait lire l'article, mais non, on n'a pas encore lu.
Écoute,
s'il vous plaît, on t'a écouté.
Ce qu'on a ajouté, parce que dès le premier mandat, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes dans les provinces. Alors on a mis un article, l'article 197, c'est-à-dire 197 et 198. Que disent ces articles? C'est pour répondre à ce que tu disais. Les articles 197 et 198 disent ceci. 197. Lorsqu'une crise politique grave et persistante menace d'interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le président de la République peut, par une ordonnance délibérée en Conseil des ministres et après concertation avec le bureau de l'Assemblée nationale, du Sénat, dissoudre l'Assemblée provinciale. Voilà. Le président de la République est dans ses prérogatives de l'article 69 qui régule le bon fonctionnement des institutions provinciales. Donc, c'est de la même manière à l'article 198 qui dit lorsqu'une politique, donc c'est la même chose, lorsqu'une crise politique grave et persistante menace d'interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales,
voilà, très chers auditeurs, nous revenons pour la conclusion de l'émission de ce jour. Nos excuses pour cette coupure. Là, nous sommes sous générateur. Il est temps de clôturer cette production Paix et Développement de ce dimanche. Idé Bakoulou, vous étiez disant.
Oui, j'étais disant que notre ami Amani s'est trompé en parlant de prérogatives qu'on a données au président par la révision constitutionnelle. En fait, ces prérogatives tirent leurs sources de l'article 69 alinéa 3, parce que le président de la République, on lui a donné la mission d'arbitrer, d'assurer par son arbitrage le bon fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions.
Ça, c'est l'arbitrage.
L'arbitrage, bien sûr, oui. C'est ce que je dis. Oui. Maintenant, comment faire cet arbitrage en cas de crise persistante dans les provinces et au niveau du gouvernement provincial? C'est ça ce qu'on a explicité par l'article 197 et 198. Il a aussi parlé de... Parce qu'Amos a dit que le président Bodji, il a dit non, il n'est que président. Non, le président n'est pas un figurant. Hein.
Tout à fait.
Je voudrais que quand tu seras responsable d'une chose, ne sois pas figurant. Tu dois orienter. C'est ça le président. Non,
merci.
Tu dois orienter. Non, je vais finir par ceci. Je vais finir par ceci. Parce qu'on a parlé des responsabilités des députés provinciaux ou des députés nationaux. Comme Amos l'a dit, les députés du Nord Kivu et de l'Ituri se sont soulevés hier pour évaluer l'état des sièges. Je me demande s'ils ne sont pas dans un schéma où il faut lever l'état de siège pour vider l'article 219 de son contenu. Mais moi, j'avais dit à l'époque que les députés nationaux du Sud Kivu, ce que nous leur demandions à l'époque, c'est de sécher la plénière d'adoption de cette loi ici. De cette manière qu'ils pouvaient vraiment nous aider.
Malheureusement.
Alors, il a dit le...
Non, ne revenons pas trop sur ce qu'il a dit, parce que nous sommes à l'étape de conclusion.
Je n'y reviens pas.
Attends.
Je vais tout simplement dire ceci. Le peuple du dedans, comme on est en train de dire ce genre de termes-là. Le peuple du dedans et du dehors.
Ouais,
ce n'est pas deux peuples différents, en fait. C'est tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui a une délégation du pouvoir, mais le peuple est le même. Ce peuple-là, c'est celui qui a fait cette constitution. C'est ce peuple qui a adopté cette constitution. C'est ce peuple qui a mis les limites dans cette constitution. C'est ce peuple-là, merci. C'est moi, c'est toi.
Merci beaucoup. Il y a soupir à votre conclusion et la suite des actions.
Je voulais juste faire un message au président de la République.
Faites-le en 10 secondes.
Hein. Oui, monsieur le président de la République, ne suivez pas ces troubadours. Ces gens qui disent une chose aujourd'hui et une autre demain. Ils vont vous mettre dans les trous. Et quand il vous aura mis dans les trous, ils vont fuir.
Merci
comme vous l'aviez dit lui-même.
Merci beaucoup, Ignace Pépé, à votre conclusion.
Il portera lui-même sa croix.
Le processus de l'adoption d'une constitution, de sa révision et même de son changement, est un processus à la fois juridique, c'est-à-dire technique, et politique. C'est-à-dire qu'il tient compte de l'environnement. Je ne sais pas si l'environnement actuel est propice au changement de quoi que ce soit dans cette constitution. Je crois que n'eût été le contexte du Sud Kivu et du Nord Kivu aujourd'hui, vous alliez sentir que ce qui s'est fait à Kinshasa aller chauffer 10 fois plus ici à Bukavu.
Tout à fait.
Parce que les initiatives heureuses dans ces pays viennent de l'Est.
Tout à fait.
Je connais un professeur, je me garde de citer son nom, il est venu faire une conférence ici à Bukavu. Il était encore député à l'époque, après il deviendra ministre. Il a tenu une conférence au collège Al-Fadjiri, et à 15h juste, la salle était pleine, il y avait 3000 personnes. À 5 minutes de la fin de la conférence, il y avait toujours 3000 personnes. Quand on a commencé à lui poser des questions, il m'a dit, mais je ne comprends pas. Les étudiants ici, ils ne quittent pas la salle. Si j'étais à l'université de Kinshasa, la salle serait déjà vide. C'est un éminent professeur qui est sur la liste de ceux que vous citez, hein, ceux qui sont cités dans la commission de rédaction de XYARD. Il a dit ceci. Le développement de ce pays ne partira pas de Kinshasa, il partira de l'Est. Je ne sais pas s'il a raison. Je ne peux pas aller chanter ça à Kinshasa, ce serait diminuer, considérer qu'il y en a qui sont plus intelligents, d'autres qui ne sont pas malins, etc. Mais il faut lire le contexte. Les institutions politiques, disent les politologues, ne sont que ce que sont les hommes qui les animent. Avec les meilleurs textes du monde. Si vous n'avez pas été à l'école, vous n'avez pas été bien élevé, vous n'avez pas un entourage correct et vous n'avez aucune expérience, on vous donnera un texte, le meilleur du monde, vous direz, mais on peut changer ça chaque matin. Est-ce que c'est la Bible?
Merci beaucoup.
Je voudrais terminer par... Il y a quelque chose que je voulais dire, bon, mais je respecte le timing. La Constitution est un texte sacré. Je ne sais pas, vous êtes de quelle formation, mais je suis littéraire. La Constitution est un texte sacré. Vous voyez la langue que nous utilisons ici, c'est le français. Au sortir d'ici, on parlera Swahili, Mash ou Kirega.
Ouais.
C'est pas parce que quelqu'un a mal parlé la langue qu'on va dire on doit supprimer le Mash, c'est une mauvaise langue. Le français, là, t'es là mal parlé, on doit supprimer le français, ça devient une mauvaise langue. C'est pas parce que quelqu'un fait un mauvais usage de la constitution qu'on doit dire, mais c'est jour, quel texte là, c'est des chiures des chiens, ouais. Il faut jeter, etc. Ce que fait l'opposition aujourd'hui, je ne fais pas la politique active maintenant. En Swahili, du Manema, on dit, je ne sais pas si les auditeurs vont me tolérer, wewe mwenye kufulama ausikie haya. Mimi wakuchungulia ndio nasema pourquoi qu'on aniangalia. Écoutez, faites de bonnes choses et les gens apprécieront ce que vous allez faire.
Merci beaucoup.
Mais si vous faites des conneries, ouais. Mais on va vous enterrer.
Merci
non,
beaucoup.
Pas physiquement, mais politiquement.
Merci beaucoup. Amani, vous étiez seul pratiquement contre tout le studio.
Ouais.
Merci beaucoup. 30 secondes à vous pour conclure.
C'est vrai. Mais c'est peu parce que vous venez d'aller de le dire, tout le monde va dans les sens.
Dans les idées, en fait.
C'est ce que moi j'ai dit. Mais moi, je suis dans une réflexion qui pense que cette constitution est une œuvre humaine.
Merci beaucoup.
Humaine qui peut avoir quelques imperfections, susceptible d'être corrigé.
Merci beaucoup. Amani Mandeleo, nous vous remercions très chers auditeurs. Fin de l'émission Paix et Développement de ces jours. Merci à vous tous de nous avoir suivis.
Choukran, le peuple gagnera pour toujours.